BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission qui s'occupe de votre argent, de vos finances personnelles. On est en direct à la radio, à la télé, sur le web de 10h à midi, même quand les marchés sont fermés comme aujourd'hui. Et puis on est à toute heure de la nuit et du jour en podcast. Nous sommes le vendredi 29 mars 2024. Au programme, les bourses sont fermées, oui, mais on va quand même parler marché boursier, notamment avec Olivier Lévy. On va faire le bilan du premier trimestre côté bourse et des performances, notamment à Paris depuis le début de l'année. Y a-t-il encore des opportunités d'investissement? 10h30, votre dose d'économie comme tous les jours avec Nicolas Dose. Il nous emmène à la foire. À la foire fiscale, celle qui a démarré il y a 48 heures. La créativité de nos élus pour inventer de la fiscalité est sans limite, alors qu'aucun ne semble venir avec des idées d'économie. On en parlera tout à l'heure avec Nicolas. Double séance de coaching aujourd'hui. D'abord à 10h45, notre macroéconomiste Nathalie Benatia pour votre séquence d'éducation financière. On va zoomer sur les indicateurs de confiance des ménages. Chiffres publiés cette semaine dans plusieurs pays, dont la France. Qu'est-ce que ça signifie pour nous, les épargnants? Séquence Private Equity avec Alexandre Leng vers 10h05. On vous coach 5 ans après le lancement du plan Deep Tech. Nouveau paysage de l'innovation en France. Comment investir dedans? Comment investir dans le secteur des Deep Tech? Réponse avec Alexandre. Le vendredi, c'est 30 minutes d'immobilier. Aujourd'hui, spécial expatrié et investissement à l'étranger avec nos experts, dont Guillaume Erard du Figaro Immobilier. On va parler de ces trois pays où les Français achètent le plus de l'immobilier. C'est notamment l'Espagne. Je vous en dis pas plus. Réponse à 11h15. Et puis, c'est vendredi, édito crypto avec Amaury de Tonquédec pour tout comprendre de l'actualité Web3 et crypto de la semaine. Au programme, il y a vous. Vous êtes nombreux et nombreuses à nous écouter en podcast. Merci pour votre soutien et votre écoute. Vous avez la parole, même en ce jour de marché fermé. L'adresse est direct@bfmbusiness.fr. Et puis, vous pouvez également m'écrire sur LinkedIn en message privé. Je vous lis. À suivre, on va faire le point sur les actualités finances personnelles qui vous concernent.
Votre rendez-vous avec AG2R La Mondiale. Épargne, retraite, santé, prévoyance. Avec AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.
Tout pour investir, le journal de votre argent.
Un mot de bourse pour démarrer. Wall Street a fini en ordre dispersé hier, ultime séance de la semaine et du trimestre. Le Dow Jones a gagné 0,12% à 39,807 points. Le S&P plus large a pris 0,11% à 5,254 points. Et le Nasdaq composite de son côté a reculé légèrement de 20 points à 16,379. Les trois principaux indices de Wall Street finissent le trimestre en nette hausse. C'est même le meilleur premier trimestre pour le S&P depuis 2019. Il a pris plus de 10% entre janvier et mars, dopé évidemment, vous vous en doutez, par l'engouement pour l'intelligence artificielle et puis la perspective d'un assouplissement de la politique monétaire de la Fed, peut-être cette année. Le Dow Jones, lui, s'est rapproché du seuil des 40 000 points sans toutefois les atteindre, après avoir dépassé pour la première fois les 39 000 points plus tôt cette année. De notre côté de l'Atlantique, la Bourse de Paris, hier, a aussi achevé sa dernière séance de la semaine, du mois et du trimestre à 8205 points, bien aidé par la dynamique des valeurs bancaires. La Société Générale plus 2,3%, BNP Paribas plus 1,8% ou encore le Crédit Agricole en hausse de 1,7%. En fin de matinée hier, on l'a suivi pendant le direct, le CAC 40 s'est brièvement frotté aux 8254 points, un nouveau record absolu intraday qui lui a permis de tester le seuil symbolique qu'on surveillait avec nos traders des 8250 points. L'objectif long terme que le CAC s'était fixé avant néanmoins que l'indice parisien ne cède progressivement l'ensemble de ses gains sur la séance d'hier. Sur le trimestre, eh bien, à Paris, on a progressé de 8,7% après avoir déjà pris presque 6% au trimestre précédent. Reste-t-il des opportunités d'investissement? On va voir ça avec Olivier Lévy dans quelques minutes. C'est donc un long week-end pascal. Les marchés occidentaux ont fermé hier soir pour ne rouvrir que lundi pour Wall Street et puis mardi pour les places européennes, dont Paris. Les investisseurs ont découvert hier la dernière estimation de la croissance du PIB américain au quatrième trimestre, je vous le rappelle, révisée de 0,2% à la hausse et qui ressort à 3,4% en rythme annualisé. À part ça, l'actualité de la semaine a été assez peu fournie. Le principal événement, on l'attend aujourd'hui, côté États-Unis, c'est la publication de l'indice PCE pour février, l'indicateur d'inflation privilégié, vous le savez, par la Fed. Et le président de la Réserve fédérale, justement, Jérôme Powell, qui s'exprimera également cet après-midi, bien que les marchés soient fermés. Un mot de pétrole en hausse, alors que l'approvisionnement mondial, lui, est en baisse. Les cours ont grimpé hier, il faut le relever. Le baril de Brent de mer du Nord pour livraison en mai a pris 1,6% à $87. L'équivalent américain, le baril WTI, a gagné 2,2% à $83. Les deux profitent des problèmes d'approvisionnement ou en tout cas des craintes de rupture à travers le monde. Les perspectives de production et d'exportation de la Russie sont progressivement dégradées en raison des frappes de drones ukrainiens. C'est ce que dit un analyste de chez PVM Energy. Le contexte géopolitique, mais aussi la volonté de l'OPEP+, de maintenir ses coupes de production, ont apporté du soutien au cours du brut. C'est ce qu'on constate. L'OPEP+, qui tiendra une réunion technique le 3 avril, juste après le week-end prolongé. Et puis pour finir, pas de chocolat, mais un mot de tabac. On va, selon les échos, avoir un décret aujourd'hui publié dans les prochaines heures pour autoriser les particuliers à importer, oui, à vous, vous particuliers qui fumez, à importer depuis un autre pays de l'Union européenne jusqu'à 800 cigarettes. Alors 800 cigarettes, ça veut dire quoi? Ça veut dire 4 cartouches, 400 cigarios, 20 cigares ou 1 kilo de tabac, c'est-à-dire très exactement 4 fois ce qui est actuellement permis par les douanes françaises depuis 2020. Fin septembre, c'est une décision du Conseil d'État qui a imposé à la France simplement d'aligner ses quotas légaux d'importation de tabac sur les règles qui sont déjà en vigueur dans la communauté européenne. C'est donc fait. Le gouvernement, toujours d'après nos confrères des Échos, a traîné les pieds parce qu'il redoutait que ça ne se traduise par un boom des achats de cigarettes à l'étranger. Car oui, c'est moins onéreux chez nos voisins. En Belgique, les cigarettes sont environ 20% moins chères. Au Luxembourg, en Espagne et en Andorre, c'est 50% de moins. Le prix moyen en France du paquet de cigarettes a pris 50% depuis 2018 et dépasse les 12 euros. Pour ceux qui ne fument pas, vous vous rendez compte, 12 euros. Le gouvernement vient de boucler une deuxième opération de nettoyage, d'opération douanière, en tout cas d'ampleur, baptisée Colbert 2, qui visait spécifiquement les trafiquants de tabac. Elle était promise par le ministre du budget Thomas Cazenave aux buralistes. Et cette série d'opérations de coup de poing, s'est terminée hier dans les aéroports, sur les points de vente à la sauvette et aussi sur les routes. C'est l'heure de parler de bourse, même si les marchés sont fermés. On va faire le point avec l'équipe de Levy Capital Partners pour voir si le trimestre plutôt glorieux côté de la Bourse de Paris peut nous permettre, à nous d'investisseurs particuliers, de continuer de faire des bonnes affaires. C'est à suivre.
Tout pour investir, les marchés et vous.
Eh bien oui, pas d'Antoine Larigauderie à Euronext, il est déjà en week-end. Nos traders sont aussi en week-end, et ce jusqu'à mardi, parce que les bourses européennes seront fermées lundi inclus, ce qui ne sera pas le cas à Wall Street, qui travaillera lundi. Heureusement, Olivier Lévy est avec nous. Bonjour Olivier.
Bonjour Lorraine, merci de me recevoir.
Pas de week-end prolongé pour vous, vous êtes président de Levy Capital Partners. On va vous demander votre regard sur ce trimestre qui vient de se clôturer en bourse. Pas mal du tout. En termes de performance, non?
Oui, on a atteint des records. Alors, comme vous l'avez mentionné, moi, je suis ancien banquier, gérant, trader. Le Multifamily Office Levy Capital Partners vise d'abord à sanctuariser les patrimoines de nos clients, puis à développer. Et évidemment, on a un trimestre record, tout étant le vert. Le CAC 40 plus 9, le Nasdaq plus 9, le pétrole plus 10, l'or plus 9. Tout ça, c'est très bien, avec de grandes disparités. Et si on dézoome, on voit que le Nasdaq a fait plus 56% sur les 15 derniers mois, alors que le CAC 40 n'a fait que 17%. On voit que là aussi, si on dézoome dans les valeurs, on a du Nvidia dans le Nasdaq qui fait plus 90%, Meta plus 40, et on a des valeurs comme Apple à moins 13 et Tesla à moins 30. Donc ces disparités, on les retrouve dans la technologie, on les retrouve dans le luxe, LVMH plus 13, Kering moins 9, Hermès plus 23, Rémy Cointreau moins 25, et des secteurs qui sont à la traîne et d'autres qui, évidemment, de par le contexte, prennent là aussi toutes les parts de marché, je dirais, des actionnaires, donc les bancaires et certains autres secteurs, évidemment, comme les médias, évidemment. Donc, en ce qui concerne les opportunités d'investissement, je dirais que les valeurs de croissance sont bien payées, il est temps de prendre certains bénéfices.
Il est temps de prendre des bénéfices, vous sur,
oui, il est temps d'écréter, évidemment, puisque le marché minimise là aussi un contexte géopolitique. L'inflation était attendue en forte baisse, elle revient, elle est volatile. La transition énergétique est pour beaucoup, la réindustrialisation, le protectionnisme, le conflit géopolitique, les sanctions internationales, tout ça, ça va laisser une inflation qui fera que les taux ne devraient peut-être pas baisser tout de suite. En tout cas, les banques centrales nous ont prévenus, cela va durer. Donc des opportunités, il y en a dans les marchés actions, sur les small et mid caps, évidemment, sur les valeurs patrimoniales qui se traitent sur des price-earnings ratio raisonnable avec du pricing power. Il y en a également dans les foncières cotées en bourse qui ont été un peu trop survendues, celles qui ont du pricing power, celles qui indexent les loyers. Je pense pas au résidentiel, mais je pense naturellement à la logistique, je pense aux data centers, je pense aux centres commerciaux versus les bureaux qui ne sont pas prime et qui eux continueront de souffrir. Il y a également des opportunités dans le marché obligataire.
Vous voyez,
pendant 10 ans, on a eu une période où les taux d'intérêt étaient quasi zéro, voire négatif. Donc, on se battait pour avoir 1%. Aujourd'hui, sur des notes, des bonnes notes, investment grade, du triple B+, du A-, on peut très clairement avoir du portage pendant 5 à 7 ans et obtenir 5%. Sans trop prise de risque, avec même une potentielle baisse des taux qui ferait que la sensibilité donnerait davantage de rendement à ces obligations. Donc on a redécouvert les obligations maintenant depuis 18 mois, comme on redécouvre un peu la dette privée. Un bémol, je ferai très attention à tout le high yield, à toutes les, effectivement, tous ces émetteurs moins bien notés, car trop endettés, aux structures bilancielles fragiles.
Vous nous disiez que dans les opportunités d'investissement, vous regardez de près ce qu'on appelle les valeurs patrimoniales. Oui. Ça nous emmène du coup sur la cote mid et small. Pourquoi cette confiance alors qu'on le voit, cette cote, elle souffre quand même?
Elle souffre injustement. Elle souffre quand le private equity se traite sur des niveaux de valorisation qui est de l'ordre de peut-être 15 à 20 fois les résultats versus des small et mid cap qui traitent entre 7 et 10 fois. Elle souffre injustement à notre goût parce qu'évidemment il y a eu un environnement de taux certain, que les grands ETF de la place, les trackers, elles, s'arrogent surtout de répliquer les grandes capitalisations et pas forcément les small et mid cap pour des raisons budgétaires et économiques. Les small et mid cap, faut jamais oublier, ce sont des entreprises patrimoniales. Vous avez des actionnaires de référence qui sont des familles qui sont là pour une ou plusieurs générations, qui ne prennent pas des risques mais qui les encadrent.
Donc une structure financière que vous aimez bien.
Qu'on adore, avec des possibles bonnes nouvelles, des retraits de cotes, parce que là aussi injustement valorisés, avec des situations spéciales, là aussi parce que des réinventions à venir dans une configuration de marché qui est assez inédite, je dois dire. Je boursicote depuis une trentaine d'années. On sort de 10 ans qui ont été totalement anormales et on revient vers une certaine normalité avec des taux qui là aussi sont plus en rapport avec une certaine réalité. Je mettrai à nouveau un autre bémol, c'est que il y a aussi un risque qui me paraît sous-estimé lié au dégonflement, à la réduction du bilan des banques centrales. Il faut pas oublier que on a une guerre sur le sol européen, on a énormément d'élections cette année et on a une inflation qui n'est pas forcément sous contrôle.
Donc, on va le voir cet après-midi avec l'annonce du PCE.
Tout à fait.
Donc vous nous dites votre regard sur les banques centrales là en tant qu'investisseur particulier, que faut-il retenir des dernières décisions ou non-décisions?
C'est que les taux pourraient baisser, mais beaucoup plus lentement que prévu, beaucoup plus lentement qu'attendu, ce qui pourrait décevoir le marché. Ce qu'il y a, c'est qu'en bonne gestion, quand on fait trop d'argent trop vite, il est bon d'écréter un peu, notamment sur des valeurs de croissance qui sont quand bien même incontournables. Je pense au Alphabet, au Amazon, au Apple, qui ont des systèmes, qui ont des semi-oligopoles, qui ont un pricing power, qui ont du cash, qui commencent à verser des dividendes, qui ont des structures bilancielle saine et qui seront encore là demain et après-demain de par les sous-jacents. La cybersécurité, le cloud, et évidemment, tout ça, ça a une traction pour le reste du monde, mais d'abord pour les 7 magnifiques, évidemment.
Olivier Lévy, président de Lévy Capital Partners. Le mot de la fin, vous savez, c'est une émission d'investissement qui s'adresse aux particuliers. On aime bien donner des bons conseils. Vous avez rappelé que vous boursicotez depuis une trentaine d'années. Est-ce que là, il y a 4 jours, on s'ennuie? Est-ce que c'est le moment de boursicoter?
Écoutez, il est toujours moment de boursicoter. Il faut faire preuve de bon sens. Il faut savoir valoriser ce qu'on achète et savoir ce dans quoi on investit, se poser les bonnes questions et avoir ses intérêts alignés justement avec l'entreprise ou le produit dans lequel on rentre. Tout à fait.
Bon, on fait ses devoirs en gros ce week-end, on prend le temps si on
veut. Mais écoutez, restons studieux.
Se documenter. Et qu'est-ce que le mot d'ordre pour la semaine prochaine ? Qu'est-ce que vous anticipez ?
Écoutez, on n'a aucune boule de cristal. Nous, on est là pour le très long terme. On est là pour plusieurs générations, je l'espère. Et donc, l'idée, c'est surtout de commencer tranquillement à réduire un peu la voilure et à possiblement profiter d'opportunités qui pourraient se dégager demain et après-demain.
Voilà, il est temps de décréter. C'est ce que vous dit Olivier de l'équipe Lévy Capital Partners. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour poser votre regard sur ce premier trimestre boursier de l'année. Il est temps de parler peut-être de la fin du chapitre le plus moche de la courte histoire du marché des cryptos. On va parler de Sam Bankman-Fried, le patron d'FTX qui a été condamné hier avec nos experts. C'est à suivre dans quelques secondes. À tout de suite.
Tout pour investir, tout pour votre argent.
Nous enchaînons sans aucune transition vers notre table ronde d'experts qui ce matin est réunie, bien que les marchés soient fermés, pour parler de l'actualité financière et patrimoniale qui nous concerne. D'abord une femme, bonjour Caroline Ménager.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes la cofondatrice de PixPay, l'éducation financière pour les plus jeunes et leurs parents. Nous sommes également avec Mounir Lagoun, cofondateur de Finari. Bonjour Mounir.
Bonjour Lorraine.
L'éducation financière pour tous. Et puis, ce n'est pas jeudi, pas de panique pour ceux qui nous suivent au quotidien, mais Alexandre Leng de Tidigo est là. Bonjour Alexandre.
Bonjour Lorraine.
C'est week-end prolongé à Paris pour Alexandre également. Nous allons commencer ce tour d'horizon de l'actualité financière, évidemment, avec un ancien des cryptos derrière les barreaux pour 25 ans. Mounir, vous nous racontez ?
Écoutez, c'est la suite de notre saga Dallas version crypto. Sam Bankman-Fried a été jugé. Il a été condamné à 25 ans de prison. Vous l'avez dit, à 11 milliards d'amende aussi. C'est quand même...
C'est pas rien.
C'est pas rien. Finalement, il s'en sort pas si mal puisque le procureur avait demandé entre 40 et 50 ans. La peine maximale encourue était 110 ans. Donc, Sam Bankman-Fried, qui aujourd'hui a 33 ans, sortira de prison finalement relativement jeune. Donc, il y aura une vie après pour lui. Tant mieux. Le procès a été quand même un spectacle incroyable. Le juge a dit qu'en 30 ans de carrière, il n'avait jamais vu quelqu'un qui était aussi manipulateur dans l'audience. Donc c'était vraiment assez incroyable. Et si on le met en parallèle avec Madoff, qui était le plus grand criminel financier, je pense, de l'histoire jusqu'à maintenant, il s'en sort quand même très bien.
Il a pris 150 ans, Madoff, non ?
Il avait pris pour 150 ans. Il est mort au bout d'une dizaine d'années. Donc voilà, c'était quand même assez brutal. Ce qui est sûr, c'est que c'est quand même énorme par rapport au crime, on va dire. Alors évidemment, il y a eu 9 milliards d'euros qui sont volatilisés. Mais il faut bien comprendre qu'en France, pour des crimes de sang, il y a des gens qui ont des peines qui sont largement inférieures à ça. Donc on est vraiment sur un coup de massue de la justice qui veut envoyer un signal, à savoir... Le secteur de la crypto, il va falloir vous mettre au diapason, il va falloir arrêter de faire ça, sinon vous allez aller en prison comme SBF.
Est-ce que c'est la fin d'un chapitre très très moche de cette histoire crypto très courte, Caroline ? Qu'est-ce que vous regardez ? Comment vous regardez cet épisode de Dallas crypto ?
Bah, effectivement, c'est en tout cas un signal d'alarme comme Mounir le dit. On voit qu'aujourd'hui, seuls 10% des Français ont investi en crypto-monnaie, même si ça augmente de plus en plus. Je pense qu'il y a besoin aussi de signaux un petit peu plus rassurants pour les investisseurs pour pouvoir investir de manière plus sereine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les banques, typiquement, sont encore très frileuses par rapport à ça.
C'est seulement 10% ou déjà 10%, c'est selon. Mais en tout cas, ce que vous nous dites ce matin, c'est que les banques et puis plus largement les courtiers n'aident pas beaucoup à rassurer non plus.
Non, ils ont assez peu pris le pli aujourd'hui, même si la hausse récente est très très forte du Bitcoin, je pense, va faire bouger les lignes en 2024. En tout cas, elles sont aujourd'hui frileuses, à la fois un peu effrayées, je pense, par la chute de Terra en 2022, par les 25 ans de prison de SBF. Mais on sent que les lignes vont bouger et que potentiellement, en tout cas, des banques, des courtiers pourraient être intéressés dans 2024 pour commencer à permettre aux investisseurs d'investir en crypto.
Quand on voit le rallye crypto des dernières semaines, on se dit que la page est déjà tournée. Il y a quand même pas mal de cash qui transite là, Mounir.
Bah écoutez, il y a 6,5 millions de Français qui investissent en crypto. Donc si les banques ne veulent pas se réveiller maintenant, tant pis pour elles. J'ai envie de dire, il y a d'autres courtiers excellents, notamment, que je ne citerai pas, qui proposent déjà des solutions. Donc il y a plein de solutions en réalité. Je pense que les banques sont assez hypocrites. Elles disent qu'elles veulent protéger l'utilisateur, mais en parallèle, vous pouvez acheter des produits dérivés. Mmh. Vous pouvez acheter du hors PA qui a fait moins 99%. Vous pouvez acheter du produit structuré, qui est quand même un produit assez complexe. Donc, toutes ces banques qui, d'un côté, mettent en avant la protection de l'utilisateur ou du consommateur ou de l'investisseur, vendent des produits qui sont extrêmement dangereux et qui sont, par essence, des produits de spéculation. Mmh. Personne n'a besoin d'un produit dérivé, ça n'existe pas. Enfin, c'est juste pour jouer et pour gagner de l'argent, et il y a beaucoup de commissions dedans. Donc je trouve ça assez hypocrite. Et comme Caroline l'a dit, 11% ou 12% des Français seulement qui investissent en crypto, mais je trouve ça énorme en fait. Mmh. C'est plus 28% par rapport à l'année dernière, et c'est déjà la deuxième classe d'actifs préférée des Français. Donc je pense que d'ici quelques années, ça sera la première, et la plupart, peut-être que nos enfants ou les enfants de nos enfants commenceront à investir en crypto avant même de toucher aux actions qui seront un peu l'actif des boomers.
De Sam Bankman-Fried en Bermuda à Larry Fink de BlackRock, qui dit que les cryptos c'est bien, l'industrie a quand même changé de face quoi.
Ouais, je pense qu'il y a les cryptos qui ont pris un grand intérêt hein, chez les Français, chez les particuliers, mais en général, le non-coté qui est monté en même temps. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que les deux ont une montée qui se fait en parallèle. Pour revenir sur les banques, ce qu'on voit depuis des années, hein, c'est que les banquiers, les courtiers, ces acteurs historiques sont plus préoccupés par le risque d'image, finalement par le risque pour l'épargnant. Mmh. Et je rejoins Mounir là-dessus. Ils ont des produits qui sont vraiment pas bons, qu'ils n'ont aucun problème à lister et à relister, parce que c'est des produits traditionnels qui sont là depuis longtemps, qui ont des performances qui sont très mauvaises, qui affichent des garanties de rendement, en tout cas qui sont vues par l'épargnant comme garantie, hein, la SCPI hein, en l'occurrence par exemple, hein, alors qu'en réalité, l'argent est à risque, de la même manière qu'en bourse, qu'en mon côté, qu'en crypto. Et lorsqu'on regarde justement BlackRock et l'ETF Bitcoin et ses performances, on voit qu'il y a de plus en plus de produits aussi qui permettent de sécuriser des rendements, hein, qui ont commencé à avoir l'équivalent des produits structurés sur les cryptos. Finalement, est-ce que vraiment c'est une classe d'actifs qui est si dangereuse que ça? Oui, c'est une classe d'actifs risquée. Oui, il y a de la volatilité. Maintenant, bon, on est dans l'investissement, et le risque et le rendement sont corrélés. Je pense que ça, il faut le voir. Il y a des nouveaux acteurs qui émergent, et d'ailleurs, cette frilosité des banques laisse place à ces nouveaux acteurs.
Voilà, le dilemme peut-être des banques et des courtiers entre le risque d'image et le risque réel pour les épargnants. On en reparlera avec Amaury de Tonquédec en fin d'émission, puisque c'est vendredi. Amaury, qui est aux manettes de BFM Crypto, le club viendra nous faire son édito crypto. Un petit mot pour finir ce tour d'horizon sur la French Tech, sur les recrutements. Alors, on le sait, il y a un petit hiver dans la tech française, mais néanmoins, ça recrute. Des entreprises ont même beaucoup recruté. Alexandre, vous nous faites un petit top.
Oui, alors ça continue à bien recruter. Hein. Petit point quand même, les startups, parce qu'on pouvait s'imaginer, il y a quelques années, on voyait les startups comme un petit pan de l'économie. Ça représente aujourd'hui 5 à 10% de l'économie. C'est à l'origine de plus d'1,5 million d'emplois. C'est plus que les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, de l'agriculture réunis. Hein, c'est le président de la République avait fixé des objectifs ambitieux, hein, 100 licornes, 500 start-up deep tech d'ici à 2030. Pourquoi ces objectifs-là? Parce que aujourd'hui, ce dont on est persuadé, hein, chez Tudigo également, c'est que ces objectifs de moyens-là, ces start-up, c'est le meilleur moyen d'atteindre le plein emploi, c'est le meilleur moyen d'assurer la neutralité carbone d'ici à 2050, et donc de nous permettre d'aller vers cette transition environnementale dont on a besoin. Donc l'emploi dans les startups, c'est important. L'emploi dans les startups, il est continué à être dynamique. Hein. Il y a des secteurs qui recrutent. Alors, on en parlait tout à l'heure, finalement, les secteurs qui recrutent, c'est les secteurs qui lèvent aussi de l'argent. Donc, en première position, on trouve les green tech. On se souvient c'est de la récente levée de Vercor. Je pense qu'on aura l'IA sur, même si c'est encore focalisé sur quelques startups. On a en deuxième position les startups industrielles, et notamment les startups deep tech, dont on parlera tout à l'heure, qui ont connu 35% de croissance moyenne en 2023. Et puis en troisième position reste le logiciel, qui a toujours été dans le top 3, et qui fait plus 30% en moyenne. Point intéressant, c'est dans les fintech. Alors, La fintech n'allait pas très bien hein, du point de vue des levées de fonds, à l'exception de certaines, comme Penny Lane qui est passée au statut de licorne récemment. Et puis, vous avez Conto également, qui affiche plus de quasiment 300 emplois supplémentaires, parce que Conto, finalement, se porte bien pour trois raisons. Une très grosse levée de fonds en 2021, hein, de quasiment un demi-milliard d'euros. Également, un modèle en abonnement qui permet d'assurer de la récurrence. Et puis, ça fait partie de ces acteurs qui finalement profitent de la hausse des taux d'intérêt. On a tous ceux qui ont pâti de cette hausse des taux d'intérêt, tous les acteurs de l'immobilier, tous ceux qui avaient besoin de financement. Et puis vous avez les banquiers, et puis ceux qui ont des dépôts, qui grâce à ces taux d'intérêt commencent à générer des revenus.
Voilà. Bon, en tout cas, la bonne raison de recruter, c'est d'avoir plus de clients. Vous êtes presque tous dans cet écosystème fintech, enfin tech en tout cas, mais même fintech.
Fintech.
Voilà. Vous recrutez en ce moment?
Tout à fait.
Mounir, faites un peu de pub pour vos recrutements là, en ce moment.
On continue de recruter. On continue de recruter dans le produit, au support client, des développeurs, front-end, back-end évidemment. Je pense qu'on a été, nous, on a levé beaucoup très tôt, et ensuite on n'a pas beaucoup recruté. Et moi, quand je voyais les gros titres des journaux de gens qui disaient qu'ils avaient doublé leurs effectifs et qu'ils allaient redoubler l'année prochaine, je trouvais ça assez paradoxal. Et moi, ça me donnait surtout mal à la tête de me dire que j'allais devoir gérer autant de nouvelles personnes. Et je ne voyais pas comment on pouvait embaucher autant de personnes qualitatives. Enfin, c'était impossible. Et donc là, aujourd'hui, on le voit, il y a des sociétés que je ne nommerai pas qui ont embauché des gens sur un an et qui ont licencié l'ensemble des gens qu'ils avaient embauchés l'année dernière. Donc c'est quand même complètement absurde. Donc nous, on embauche, on grossit doucement mais sûrement, parce que notre objectif, c'est d'être rentable, c'est de faire comme Conto, c'est de faire comme Penny Lane, c'est d'être une entreprise rentable. C'est quand même l'essence même de l'entrepreneuriat, c'est de faire une société qui est autosuffisante. Absolument. Lever des fonds, c'est bien, être indépendant, c'est mieux.
Vous, Caroline, en tant que recruteuse, vos problèmes en ce moment?
Alors, nos problèmes, pas tant que ça, parce qu'effectivement, on est plutôt bien staffé pour notre croissance. Et un peu comme Mounir, on a vraiment cette envie de croître de façon très rentable. Donc, c'est vrai qu'on a évidemment des recrutements pour accompagner la hausse de notre nombre d'abonnés d'XP, au service client, à la tech, voilà. Mais on est sur des recrutements qui sont relativement prudents, dans un milieu où, effectivement, on vise la rentabilité aussi.
Voilà. Les médias économiques ont une petite part de responsabilité, parce qu'à une époque, on ne parlait que des levées de fonds. Après, comme il n'y a plus de levées, on a surtout parlé des recrutements. Donc aujourd'hui, essayons de nous concentrer sur la rentabilité de nos entreprises, la viabilité. Comme dans la deep tech, n'est-ce pas, Alexandre?
Comme dans la deep tech. Alors, dans la deep tech, non, c'est un autre sujet, effectivement, parce que là, on va investir massivement.
Mais on en parlera tout à l'heure, parce qu'on est en retard. Vous serez notre coach tout à l'heure vers 11h05, Alexandre. On parlera de la deep tech. Bon, écosystème complètement reconfiguré, hein, vous allez nous en parler. Puis surtout, vous allez nous donner les clés d'investissement pour être un bon investisseur dans ce secteur deep tech où la France a une belle carte à jouer. Ce sera dans une grosse demi-heure. Pour l'heure, même si les marchés sont fermés, nous sommes en direct. Nicolas Dose nous rejoint dans quelques minutes. Il nous emmène à la foire fiscale, celle qui a démarré il y a 48 heures. La créativité de nos élus pour inventer de la fiscalité est sans limite. Êtes-vous d'accord avec ça? En tout cas, on en parle dans quelques secondes avec Nicolas. À tout de suite.
Tout pour investir sur BFM Business. Tout pour investir. Dose d'économie.
On vous emmène à la foire fiscale. C'est Nicolas, notre bout en train. L'annonce du déficit le plus élevé que prévu, élevé que prévu, relance la boîte à idées pour aller chercher de l'argent par l'impôt. Qui dit quoi?
Il a fallu deux jours. Il y en a pour tout le monde. Alors, les profits exceptionnels, on remonte la taxe sur le capital, on gèle le barème de l'impôt sur le revenu, ce qui peut faire rentrer des gens dans l'impôt, voire aller faire passer une tranche. On taxe les rachats d'actions, on taxe les revenus des compagnies pétrolières. On fait une taxe exceptionnelle, dit Pierre Moscovici, mais enfin l'exceptionnel temporaire en France, on sait ce que ça donne. Et puis alors, il y a l'impôt qui n'est pas de l'impôt, mais qui a le même effet. Je taille le crédit d'impôt recherche qui coûte 6,5 milliards par an. Et la Cour des comptes qui vient de proposer de tailler dans le soutien que l'État accorde au service à la personne, première niche fiscale qui coûte 9 milliards par an. Tout ça en deux jours. Je vous laisse imaginer en une semaine. Voilà.
Heureusement, il y a un week-end férié devant nous.
C'est ça.
La question, c'est, on voit que les élus s'emballent. Mais à côté de ça, Bruno Le Maire martèle qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Alors, on écoute qui?
Eh bien, le problème, c'est que Bruno Le Maire, au-dessus de lui, il a un Premier ministre, Gabriel Attal. Et sur TF1, il a dit « J'ai pas de dogme. J'ai deux lignes rouges. Pas de hausse d'impôts pour les classes moyennes travailleuses, pas de hausse d'impôts pour les entreprises. Ben, pas de dogme, ça vous ouvre le champ. Et puis, objectivement, rien n'est jamais impossible en France quand il s'agit de fiscalité. Et puis, on connaît les promesses. Enfin, moi, je me souviens de Nicolas Sarkozy pendant des années. Je n'ai pas été élu pour monter les impôts. Et patatras, fin du gouvernement, enfin, du quinquennat Sarkozy, début du choc fiscal avec François Fillon, que François Hollande, avec un talent non dissimulé, va s'attaquer à accélérer très sensiblement à son arrivée en 2012.
Bon, à côté de ça, face à un tel déficit, parce que voilà, factuellement, il y a un déficit, faire entrer plus d'argent fait quand même, partie des options.
Oui, normalement, mais plus chez nous. Non, c'est fini là maintenant. On n'a plus la possibilité. Ce levier fiscal, on l'a essoré jusqu'au bout. Parce qu'on a ce fameux record de prélèvement obligatoire. Si on continue, on l'aura, mais alors à vie, le record de prélèvement obligatoire. Parce que si vous décidez de monter les impôts sur le capital, parce qu'on a l'impression que c'est indolore, ou que sur les entreprises, parce que ça ne vote pas, mais vous avez un effet récessif sur l'investissement. Vous avez forcément un effet récessif sur la compétitivité. Le choc fiscal Fillon-Hollande va mettre l'économie française à genoux en 2011-2012. Faut quand même pas l'oublier. Ensuite, j'entends, on va tailler les aides aux entreprises. Ah, le mot aide, c'est merveilleux, ça. Parce qu'on a l'impression que c'est des aides. Non. Vous prenez les trois quarts de l'ensemble du soutien aux entreprises, ce sont des allègements de cotisations sociales. Mmh. On a fait ça pourquoi ? Parce qu'on a tout simplement un modèle social hors de prix que nous n'arrivons plus à financer. Et si on fait tout payer par le travail comme c'était le cas après-guerre, oui, ça passait après-guerre, mais ça passe plus aujourd'hui. Ça coûte trop cher. Et donc, si vous voulez qu'on supprime les aides aux entreprises, entre guillemets, n'est-ce pas ? Ben voilà, il y a 90 milliards d'euros d'allègements de cotisations. Allez, on les supprime, les 90 milliards. Je peux vous assurer que là, on a un choc sur le chômage absolument historique. Je ne pourrais pas vous le compter en point de taux de chômage, mais ce serait monumental. Et ça intervient. Il faudrait moins d'un an pour l'avoir. Après, monter les impôts, c'est sympa, mais ça ne répond pas à l'ampleur du problème. Je vous rappelle le déficit 2023, 154 milliards d'euros. Alors, on a 1000 milliards de prélèvements obligatoires. Qu'est-ce qu'on fait ? On monte à 1160 milliards. Mais c'est impensable. C'est plus possible, ça. Et puis, en plus, on sait que quand on agit trop violemment sur l'impôt, ça se paye dans les urnes. On a vaguement essayé de tripatouiller la TICPE en 2018 et la CSG. Puis récemment, là, on s'est intéressé au gazole non routier. On a vu le résultat. Ouais. Donc, il y a eu un sondage élable BFM TV mercredi sur qu'est-ce qu'il faudrait faire face au déficit. À la question, faut-il monter les impôts ? Vous avez plus de la moitié des Français qui disent non. Globalement, il ne faut pas monter les impôts. Et alors, si on montait les impôts pour les riches ou les entreprises très riches ?
200%
oui. Eh bien non, justement, non. Ça a changé. Il y a moins de 50% des réponses qui sont favorables à une taxation des particuliers aisés ou des entreprises très riches. Alors qu'à ce
Mais parce que la théorie du ruissellement fonctionne ?
Non, mais au-delà de la théorie du ruissellement, à cette question-là, il y a encore quelques années, vous aviez 80% qui étaient favorables, par exemple, à un ISF. Ouais. Bon, et donc, si vous voulez, voilà, on en est là. Donc, vous avez trois solutions aujourd'hui si vous voulez lutter contre le déficit.
Dites-nous.
Effectivement, aller prélever plus, mais on a vu qu'objectivement, on est allé au bout de l'histoire. Il y a la croissance, avec l'augmentation du taux d'emploi. C'est une autre façon de dire qu'il faut travailler plus et faire travailler plus de monde. Et puis, alors, il y a un scoop incroyable, c'est s'attaquer aux dépenses publiques. Alors là, je pense que vous ne l'avez jamais entendu, je suis le premier à vous le dire. S'attaquer à la dépense publique, c'est un double défi. D'abord, la baisser, et ensuite, la rendre plus efficace. On le dit depuis... Enfin voilà. Non mais c'est absolument incroyable ce concours l'épine de la fiscalité en si peu de temps, je suis fasciné.
Voilà, la foire fiscale est en ce moment en France.
Halt au sado-fiscalisme pour rendre hommage à l'expression de Jean-Marc Daniel.
Jean-Marc, il y a toujours le mot parfait, ce sado-fiscalisme dans lequel nous sommes. Merci Nicolas pour cette dose d'économie à retrouver en podcast et en replay sur l'application BFM Business et sur YouTube où vous pouvez également réagir. Merci Nicolas. Nous allons nous occuper de votre portefeuille sans aucune transition. On va parler d'un secteur qui recrute, qui est en croissance et peut-être qui n'utilise pas trop la dépense publique pour vivre. On va voir ça avec Éric Lafrenière. On va parler du secteur de la cybersécurité.
Tout pour investir, les marchés et vous.
Ce secteur de la cybersécurité, quand même, qui est alimenté par pas mal de subventions, on peut le souligner tout de même, on va le décrypter avec vous, Éric Lafrenière. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gérant senior chez Richelieu Gestion. Il y a moult choses à dire sur ce secteur. Racontez-nous.
Oui, tout d'abord, c'est un secteur, il faut le, l'avoir en tête, qui a très bien performé l'année dernière. On a vu, bien entendu, l'importance qu'on doit accorder de plus en plus à la protection des données. Mm-mm. On voit que le nombre d'attaques dans le monde ne cesse de progresser. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle facilite aussi les attaques, puisque ça permet à des hackers un peu moins sophistiqués d'améliorer leurs attaques.
Elle aide les deux camps, cette IA.
Exactement. Et donc, on voit que les dépenses pour suivre et pour pouvoir garder une longueur d'avance sont importantes dans le secteur. Si vous prenez le tracker ou l'ETF iShares Digital, l'année dernière, une performance de presque 38%. Mais à l'intérieur des valeurs, on a des écarts de performance qui sont significatifs. Vous prenez un Checkpoint qui avait progressé de l'ordre de 21% ou un CrowdStrike qui a fait près de 143% l'année dernière. Mmh. Donc, on peut avoir des écarts de performance à l'intérieur même de cette thématique qui sont importants. Depuis le début de l'année, les performances sont un peu plus modérées. L'ETF, lui, en soi, sous-performe le marché puisqu'il est en hausse que de 3% avec certains acteurs comme Zscaler ou SentinelOne qui affichent des performances négatives. Donc, pour nous, cette consolidation du secteur peut permettre soit de renforcer si on est déjà présent sur le secteur ou si on n'est pas encore présent sur le secteur, de pouvoir commencer à créer une position sur cette thématique qui, pour nous, est plus long terme.
On parle d'un secteur mondial. Il y a des géants principalement américains. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont notables, qu'on peut remarquer dans ce secteur qui anime le marché?
Beaucoup des sociétés, notamment dans les sociétés dites privées qui ne sont pas encore en bourse, on peut avoir beaucoup de sociétés israéliennes. Le pays est très, très pointu sur tout ce qui tourne autour de l'informatique. Mais quand on regarde sur pourquoi on pense aujourd'hui qu'il faut retourner sur ce secteur, ou en tout cas renforcer, c'est qu'on a des catalyseurs importants qui...
Lesquels ?
Lesquels, on a déjà les budgets alloués à la sécurité informatique qui sont attendus de l'ordre d'une progression d'environ 10% par rapport à l'année dernière. On a parlé de la montée en puissance de l'IA, donc ça va nécessiter aussi de s'adapter à ça. On a un sentiment du public, et les entreprises sont vraiment face à ce challenge, c'est de protéger nos données personnelles. On a vraiment, les gens y attachent de plus en plus d'importance. Et puis, on a un nouveau modèle de gestion de la cybersécurité, ce qu'on appelle l'architecture de confiance zéro, qui monte en puissance, et on a aussi un soutien réglementaire, puisqu'il faut le rappeler, l'année dernière, la SEC avait mis en place, l'été dernier, mais effectif en fin de cette année, certaines obligations de reporting en termes de failles, ça veut dire qu'on a 4 jours pour déclarer les impacts. On doit aussi maintenant fournir des données sur le niveau de compétence des board members et des membres du conseil de surveillance en termes de cybersécurité. Mm-hmm. Ça veut dire que la cybersécurité quelque part aujourd'hui sort de la salle informatique et monte dans le board. Donc on va voir que les dirigeants des sociétés vont y attacher de plus en plus d'importance.
Ça n'est plus vu que comme un poste de coût, c'est même un poste de survie.
Oui, de stratégie et de l'entreprise.
Bon, donc, il y a plusieurs domaines dans la cybersécurité. Est-ce que vous pouvez nous les décrire, nous les raconter?
Oui, on va vous les décrire rapidement et on va vous donner ensuite 3 idées qui permettent d'adresser le secteur assez rapidement. Quand vous regardez les segments de la cybersécurité, le premier, c'est tout ce qui tourne autour du réseau. Et là, c'est d'empêcher les accès non autorisés et de surveiller tout ce qui se passe autour du réseau de façon très large. Les principaux acteurs sur ce secteur d'activité vont être Palo Alto, Fortinet, Checkpoint, Cisco, Zscaler et Akamai. Ensuite, vous avez le segment qui concerne tout ce qui est l'identité et l'access management. Ça veut dire que dans nos applications, que ça soit sur le cloud ou en local, on va définir qui peut accéder à quoi, quel type de software, quelles données à l'intérieur. Et là, les principaux acteurs sur cette partie-là sont CrowdStrike, SentinelOne, Microsoft. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la sécurité de l'information et de l'event management. Et là, c'est une espèce de fusion entre la cybersécurité et les opérations IT, c'est le traitement des données. Et vous avez ensuite la partie détection et réponse attendue. Ça, c'est un peu la protection de l'infrastructure informatique.
Et là, les acteurs... Les pompiers ou la police, quoi.
Exactement. Et là, vous avez CrowdStrike, SentinelOne et Microsoft. Et l'idée, donc, aujourd'hui, quand on gère notre sécurité informatique au sein de notre entreprise, on peut avoir une approche dite plateforme, où on va avoir une plateforme qui va gérer l'intégralité de ces segments, où l'entreprise peut choisir de faire appel à des solutions plus spécialisées sur des segments donnés. Donc nous, quand on a regardé le secteur, on a décidé qu'il fallait s'exposer à travers 3 noms qui adressent un petit peu toute cette chaîne. Le premier nom qui ressort, c'est Checkpoint. Checkpoint, c'est un des grands acteurs du secteur. C'est une société qui, pendant toute cette période d'argent gratuite, contrairement à beaucoup d'autres, n'a pas fait des acquisitions à tout va. C'est un peu la société qui va piano va sano. Elle s'est concentrée de une croissance mid-single digit, tranquille pendant cette période-là. Elle a, tout en rachetant environ 2 à 4% de ses titres chaque année, et avec des marges opérationnelles autour de 45%. Donc plutôt bien. Et quelques petits achats ciblés dans des secteurs sur lesquels ils n'étaient pas nécessairement présents et sur lesquels ils pouvaient constater qu'il y avait peut-être des choses à faire. Il faut se rappeler que Checkpoint, à la base, c'est la partie cloud. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont une approche plateforme qui est a priori différenciante des autres acteurs, puisque leur plateforme a un seul, ce qu'on appelle un Language Learning Model, un LLM, et ce qui permet de, à leur plateforme de communiquer sur tous les aspects de la cybersécurité.
C'est une plateforme qui, à l'intérieur, adresse les quatre domaines que vous avez listés, donc réseau, ID, sécurité de l'info, tout ça aidé par de l'IA, en fait.
Oui, et avec un seul LLM. Si on prend Palo Alto, à côté, qui a aussi une solution plateforme, mais à travers laquelle, a priori, il y a trois différents LLM qui doivent communiquer ensemble, et donc l'apprentissage va sans doute se faire moins rapidement. Donc Checkpoint a un avantage là-dessus qui est clair. Une autre avantage qui est important pour ce secteur sur lequel il faut regarder, l'autre nom qu'on a identifié, c'est le nom de CrowdStrike. CrowdStrike qui a très bien marché l'année dernière, qui continue cette année puisqu'encore en hausse de 28%. CrowdStrike, elle est intéressante puisque c'est elle qui va permettre, en fait, c'est un peu le leader sur la partie gestion des tâches. Donc sur le cloud, elle est vraiment perçue comme la partie gagnante de son secteur, de son segment d'activité. Et enfin, le dernier nom qu'on a identifié, hein, peut-être plus pour son caractère disruptif, c'est une boîte qui est beaucoup plus petite, c'est Zscaler. Je vous parlais tout à l'heure de tout ce qui était architecture de confiance zéro. Oui. Zscaler se distingue par sa plateforme qui s'appelle Zscaler Zero Trust Exchange. Et en fait, ce modèle de la gestion du risque, ça veut dire qu'on va partir du principe qu'on ne peut faire confiance à rien. Et on va tester et remettre en question tout. Ça veut dire qu'on va demander un accès, une personne va avoir un accès à certaines données ou certains softwares. On va regarder qui demande l'accès, où cette personne est située. On va à chaque fois challenger et remettre en cause tout ce qui se passe sur le réseau. Et donc Zscaler sont connus pour bénéficier, en tout cas pour opérer, étant l'acteur un peu de référence sur ce segment d'activité. Et en ayant une approche, je dirais, ce qu'il faudrait faire, c'est définir le poids qu'on veut allouer à cette thématique-là. Et ensuite, une approche équilibrée. Pondéré entre ces trois noms. Zscaler est beaucoup plus volatile de par sa taille, de par son segment spécifique. Et vous avez quand même en assise un Checkpoint qui est un peu la valeur fond de portefeuille. Et vous complétez avec un entremilieu sur CrowdStrike. Et peut-être un petit fun fact, si vous regardez, beaucoup des acteurs de la cybersécurité sont présents en F1.
En F1,
oui.
C'est des sponsors de
exactement,
l'automobile de course.
Le secteur F1 est très sophistiqué, très pointu. Hein. Vous retrouvez SentinelOne, CrowdStrike, DarkTrace, ByteDefender, Arctic Wolf, Acronis, mais pas encore Checkpoint. À voir.
Le prochain gros sponsor de la F1, peut-être. Éric Lafrenière, de l'équipe Richelieu Gestion, qui a partagé une stratégie diversifiée, vous l'avez entendu, pour investir dans le secteur de la cybersécurité. Vous nous avez parlé de Checkpoint, de CrowdStrike et de Zscaler. Que des entreprises américaines?
C'est mon marché de prédilection.
Bah oui, on sait,
je vais pas m'aventurer sur
notre gérant zones. D'Amérique du Nord. Voilà, ces trois entreprises, ça dit aussi quelque chose, hein, que dans la liste, vous ne zoomiez que sur des entreprises américaines, au-delà du fait que c'est votre cœur de métier, on va dire. Pourrait-on mettre un acteur européen en face de ces trois valeurs?
Moi, je connais moins le marché, je ne vais pas me prononcer, je ne vais pas parler d'une valeur que je maîtrise pas.
On réfléchira peut-être à des alternatives européennes, puisque cette semaine, et d'ailleurs vous pouvez retrouver la séquence en podcast, nous avons réfléchi à comment soutenir l'économie française en investissant, mais aussi comment miser sur la souveraineté européenne. C'était mercredi, à retrouver en podcast sur notre plateforme, comme l'interview d'Éric sur la cybersécurité, comment miser sur ce secteur, avec trois valeurs en portefeuille. Merci beaucoup Éric Lafrenière et l'équipe de Richelieu Gestion. Je vous précise qu'aujourd'hui les marchés sont fermés, donc vous ne retrouverez pas BFM Bourse cet après-midi, mais les actualités restent mises à jour au quotidien et pendant tout le week-end, même Pascal, sur notre site web et BFM Bourse. À suivre, on vous coach. Notre macroéconomiste du jour, Nathalie Benatia, vient nous expliquer ce que c'est que les indicateurs de confiance des ménages. C'est un chiffre qui est publié régulièrement, que les analystes et que vous peut-être vous suivez. Qu'est-ce qu'il veut dire et pourquoi il faut le surveiller, ces indices, quand on est investisseur particulier. À tout de suite.
Tout pour investir sur BFM Business. Tout pour investir, le coach.
C'est la coach ce vendredi. Nathalie Benatia est avec nous. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Vous êtes macroéconomiste chez BNP Paribas Asset Management avec nous ce matin pour zoomer sur ce qu'on appelle les indices de confiance des ménages. Bon, c'est un indice, ce sont des chiffres qui sont publiés régulièrement, vous allez nous raconter, notamment cette semaine et pour la France. Mais bon, comme on le fait avec vous, on aime bien retourner à l'origine de ces indices, de ces chiffres qu'on surveille dans l'économie. Vous allez nous raconter ce que c'est.
Alors, ce que ce n'est pas, déjà, ce ne sont pas des indices de bonheur. On ne demande pas aux gens, est-ce que vous allez bien, est-ce que vous en êtes bien. On leur pose une série de questions sur leur situation financière, leur intention d'achat, de gros achats, leur intention d'épargner, leur perception sur l'inflation, leur perception sur le chômage, en temps réel, si j'ose dire, et puis en perspective. Et tout ça nous donne un indice.
C'est une sorte de sondage auprès des ménages. Absolument. Comment sont sélectionnés ces ménages et par qui? Qui fabrique ces indices?
Alors, en général, en France, c'est l'INSEE, donc l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques, donc une institution qui est habituée à faire des sondages de nature économique. Il se trouve qu'ils interrogent à peu près 2000 ménages et ils sont sélectionnés selon la méthode habituelle, c'est-à-dire qu'on obtient, enfin on cherche à obtenir et on obtient un échantillon représentatif de la population.
Ça n'est pas un indice du bonheur des Français, vous nous dites, vous nous apprenez ou vous nous rappelez. Ils viennent d'être publiés, ces chiffres, cette semaine. Racontez-nous ce que ça donne chez nous.
Alors, honnêtement, d'habitude, ce sont des chiffres qui ne font pas beaucoup bouger les marchés. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord une grosse part de sentiments, malgré tout, hein. Encore plus que quand on interroge les entreprises. Mais malgré tout, ça donne des informations sur alors, la confiance des ménages en France, vous l'avez dit, dans bon nombre de pays, notamment aux États-Unis, on parle de confiance des consommateurs. Mm-hmm. C'est peut-être pas la même approche, mais en fait, si les questions sont équivalentes. Et ben, ces indices de confiance nous disent, ils ont été publiés en Belgique, en France, en Allemagne, pour la zone euro et aux États-Unis, que la confiance se stabilise, voire remonte légèrement. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et après, si on creuse dans les différentes sous-composantes, on s'aperçoit que les gens commencent, notamment en France, nous apprend l'INSEE, à vouloir davantage consommer, précisément ces gros achats qui peuvent être de l'électroménager, une voiture, etc. Donc épargner un petit peu moins. On sait qu'en France, on est parmi les champions du taux d'épargne. Et une autre caractéristique de toutes ces enquêtes, alors que ce soit aux États-Unis ou en Europe, c'est que les indices n'ont pas retrouvé les niveaux qui prévalaient avant la pandémie.
Alors, dites-nous où on est par rapport au niveau pré-pandémique.
Au niveau pré-pandémique, on est aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, il y a deux grandes enquêtes. Il y en a une qui est peu baissée au moment de la pandémie et qui, depuis, est à peu près stable, hein, avec des oscillations. Et une autre qui avait beaucoup, beaucoup baissé et qui est en train péniblement de revenir au niveau d'il y a à peu près 3 ans. Donc, on est malgré tout après la pandémie.
Qu'est-ce que ça dit? On est toujours un petit peu dans la précaution, même au côté États-Unis, on préfère épargner que surconsommer?
Alors, les Américains, non, ils ne préfèrent pas épargner, hein, leur taux d'épargne.
Ont-ils déjà préféré voilà. Épargner?
Leur taux d'épargne est de l'ordre de 4% environ, il est de 17% en France, donc calculé à peu près de la même façon, donc la différence est importante. Ça nous dit qu'il y a malgré tout des hésitations, encore une fois, à se lancer dans des grands projets. Et à contrario, quand on épargne beaucoup, le but, c'est à la fin, normalement, de dépenser, en espérant que ce soit pour dépenser des choses dont on a envie et pas seulement dans l'urgence des choses dont on aurait besoin.
Nathalie, vous êtes macroéconomiste. Quelle est la corrélation, si je puis dire, et excusez-moi si mon propos n'est pas très précis, entre l'indicateur de confiance des ménages et d'autres chiffres qui peuvent concerner ces ménages, par exemple le taux de chômage ou qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, le cours de bourse? Est-ce qu'il y a des liens comme ça? Est-ce qu'on peut faire des corrélations?
Alors c'est honnêtement, c'est assez difficile, hein. C'est plus un indicateur qui ramène finalement l'économie un peu plus vers les sciences humaines, hein, ce qu'elle est. Mais on peut regarder. Ce qui est intéressant ces dernières années, c'est que les banques centrales, et notamment la Banque Centrale Européenne, a sa propre enquête auprès des ménages. Et donc, elle va concentrer les questions sur que pensez-vous de l'inflation? Pourquoi est-ce que c'est important pour une banque centrale? Eh bien, on revient toujours à la même histoire. Une banque centrale est chargée de ramener l'inflation vers 2%. Et si elle sent, si elle a la preuve ou des indices que les ménages pensent que l'inflation va continuer à augmenter, ça veut dire que ces mêmes ménages, que ces consommateurs vont exiger, demander au moins des hausses de salaire, et ça veut dire que l'inflation risque de s'auto-alimenter. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant. Auparavant, honnêtement, c'était ces indices de confiance des consommateurs, un indice mineur destiné à alimenter les gros modèles des instituts comme l'INSEE, également donner des renseignements en termes de marketing. Et puis, c'est devenu une partie des informations qui sont utilisées pour la politique monétaire, et c'est important à ce titre.
Vous avez souligné la différence entre cet indicateur aux États-Unis et en France. Déjà, c'est une différence de vocabulaire. En France, on parle de l'indicateur de confiance des ménages. Aux États-Unis, on parle de celui des consommateurs. D'un point de vue de la macroéconomiste que vous êtes, quelle est la différence entre des consommateurs et des ménages?
Alors, c'est un peu de la sémantique. Elle n'est pas énorme. On parle pour un ménage, on parle d'une unité de consommation en France.
Encore plus moche.
On retrouve les mêmes notions, mais malgré tout, la terminologie me semble peut-être pas extrêmement importante, mais en tout cas dire quelque chose de la façon dont on appréhende cet indicateur.
Bon, cet après-midi aux États-Unis, on aura le chiffre de l'inflation PCE. Jérôme Powell va parler, on n'espère pas trop dans le vide, parce que les marchés sont dans le vide. Qu'est-ce que vous anticipez dans votre équipe de ce qui va être annoncé, et de ce que peut-être pour ceux et celles qui nous écoutent, épargnants, investisseurs particuliers, il faudra retenir pour la semaine prochaine?
Alors, ce qu'il faudra retenir pour la semaine prochaine, cet indice, donc c'est une autre mesure de l'inflation qui est censée être privilégiée par la Fed parce qu'elle est normalement un petit peu plus stable.
C'est l'inflation PCE.
Voilà, l'inflation PCE, donc l'inflation sous-jacente. On regarde l'inflation sous-jacente, hors alimentaire et énergie. Et si ça se comporte comme l'indice des prix à la consommation, ça ne devrait pas constituer un choc. D'autant plus que le discours de Jérôme Powell à l'occasion de la précédente réunion de politique monétaire, c'était bah oui, on a bien constaté que l'inflation en janvier et février était plus élevée, mais on n'en tire pas des conséquences dramatiques. On continue à imaginer que nous, Banque centrale, on va pouvoir ramener cette inflation vers 2%. Donc encore une fois, cette statistique qui a été très regardée ces derniers temps, dans un vendredi après-midi où les marchés, enfin vendredi matin aux États-Unis où les marchés vont être fermés, ne devrait pas être trop importante.
Voilà. Les marchés américains qui seront ouverts lundi, contrairement aux marchés européens. Merci beaucoup Nathalie Benatia, macroéconomiste dans l'équipe de BNP Paribas Asset Management, avec nous au décryptage, au coaching sur ces expressions financières qu'on utilise parfois sans forcément les maîtriser ou comprendre exactement leurs origines. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay sur le site et l'application BFM Business. Vous restez avec nous. On continue à s'occuper de vos finances personnelles dans la deuxième partie de Tout pour investir. On va parler immobilier, on va s'intéresser à vous les expatriés qui nous suivez et qui nous écrivez. Où habitez-vous et où investissez-vous? Réponse avec Marie Cœur de Roy et nos experts. Et puis on vous coach avec Alexandre Leng de Tudigo. On va parler du secteur de la deep tech. Comment investir dans ce secteur et quelle est la différence peut-être avec d'autres secteurs où vous vous êtes exposé? Et puis c'est vendredi, Amaury de Tonquédec sera aux manettes de l'édito crypto. Tout ce qu'il y a à retenir de la semaine Web3 et Bitcoin avec lui, ce sera en fin de tranche. A tout de suite après la pub.
Tout pour investir sur BFM Business. BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumaud.
Vous êtes au cœur de l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles tous les jours, du lundi au vendredi, en direct, de 10h à midi, à la radio, à la télé, sur le web. Et bonjour à vous, expatriés qui nous écoutez en podcast. Nous allons d'ailleurs parler de vous dans notre séquence immobilier. Nous nous concentrerons sur là où vous vivez et surtout là où vous investissez. Les deux ne sont pas liés. On verra ça avec Marie Cœur de Roy, bien sûr. Et puis Guillaume Erard du Figaro et un autre expert immobilier pour répondre à vos questions. Nous sommes mobilisés dans la demi-heure qui vient. Nous allons également vous coacher avec Alexandre Leng. C'est vendredi, Private Equity. On va s'intéresser au secteur de la Deep Tech dans 5 minutes. Et puis en fin d'émission, nous serons avec Amaury de Tonquédec pour faire le point sur l'actu crypto et Web3 de la semaine. Et on ne va pas parler que de l'ancien patron de FTX qui est en prison pour 25 ans. On parlera aussi d'opportunités d'investissement. Beau programme, il y a vous nous écrivez, vous nous suivez. L'adresse est direct@bfmbusiness.fr ou sur LinkedIn en message perso. Je vous lis tout au long de cette émission. C'est l'heure de vous coacher une nouvelle fois aujourd'hui.
Tout pour investir, le coach.
Nous allons vous coacher pour investir dans un secteur très particulier, celui de la deep tech. Bonjour Alexandre Leng.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes le cofondateur de Tudigo. Vous allez nous donner vos bons conseils pour ceux et celles qui seraient tentés d'investir peut-être dans l'une des deep tech françaises, car elles sont nombreuses. En quelques mots, Alexandre, la France est plutôt bien placée sur ce secteur.
Ouais, 1300 startups deep tech créées en 5 ans, 16 milliards de financement en 2023, une croissance des investissements de quasiment 40%, 38% par rapport à 2022. La France, aujourd'hui, se positionne comme un acteur majeur de la deep tech, très près derrière le Royaume-Uni. Qui, au niveau global start-up, est pour le coup, en revanche, deux fois devant nous. Oui. Donc, voilà. Donc ça, je pense que c'est un point à relever. Et puis, si on prend l'Europe en général, la part de marché en termes d'investissement de l'Europe sur la deep tech est passée à 22%, donc devant la Chine qui est à 13%, là où la Chine, effectivement, avant 2019, était devant nous. Ça représente deux fois le niveau de 2019, même si on reste encore très loin des États-Unis.
Un tout petit peu de définition. Qu'est-ce que c'est qu'une deep tech ?
Alors, avant de rentrer, la deep tech, déjà, on est dans de l'innovation de rupture. Une innovation de rupture, c'est une innovation qui modifie radicalement les pratiques, qui crée des nouveaux marchés, qui redéfinit totalement les standards d'un secteur, qui ont le potentiel même de déstabiliser ou rendre obsolètes des technologies existantes. J'étais au salon de l'industrie mardi, et j'ai découvert, par exemple, une entreprise qui a développé des pédales de vélo qui permettent de pédaler sans la chaîne. Sur la chaîne électrique. Bon, ouais, vous imaginez quand même le potentiel
du.
C'est un vélo électrique, mais il n'y a plus de chaîne. Vous supprimez complètement la chaîne. Donc, qu'est-ce qui va advenir de l'ensemble de l'industrie? Vu le potentiel de disruption, les gains là-dessus en termes de, à la fois économique, de maintenance, on peut bien imaginer que ça va complètement changer une industrie qui fonctionne avec une chaîne sur le vélo depuis des dizaines, centaines d'années même.
L'innovation de rupture. Alors, on va vous outiller, chers auditeurs, auditrices, vous donner les outils, en tout cas une sorte de grille de lecture avant d'investir dans les deep tech. Qu'est-ce qu'on vérifie d'abord ?
Alors, qu'est-ce qu'on vérifie ? Donc, on va vérifier déjà l'innovation en question. Okay. La deep tech, c'est une entreprise déjà qui a une innovation portée par la recherche scientifique, issue de la recherche scientifique en général, qui a été développée dans des laboratoires, dans des pôles universitaires,
et qui a été concours Lépine.
Ouais. Non, mais voilà, pas de concours Lépine. On est vraiment dans de la recherche. C'est de la recherche en laboratoire. C'est des innovations. C'est de l'innovation technologique qui n'avait pas encore une application potentiellement commerciale et qui a été transférée à une entreprise. Qui va lui trouver un débouché et une proposition de valeur, une réponse à un besoin, à un problème. Donc, c'est très intense en recherche et développement. Ça rejoint avec le dispositif Jeune Entreprise Innovante que nous a mis en place Paul Midi avec les jeunes entreprises innovantes de rupture. Et c'est un temps de développement qui est très long. Okay, très long.
Long comment ?
Un fonds classique, vous êtes sur un fonds d'investissement et en général sur du 5-7 ans. Un fonds qui va investir en deep tech va plutôt être sur du 7 à 15 ans. Lorsque vous investissez en deep tech, entre le moment où vous allez passer du laboratoire à l'entreprise et puis entre le développement de l'innovation et sa mise sur le marché, il peut se passer comme en med tech, 5, 7, voire 10 ans, selon les cas. Mais c'est parce qu'en fait, on est vraiment sur des technologies révolutionnaires. Je vous donne un exemple, une entreprise qu'on a identifiée là chez Tudigo, Remedy Labs, qui a développé un bracelet connecté qui permet de soulager les douleurs chroniques. Ça semble anodin comme ça, mais c'est la première solution non médicamenteuse pour le traitement des douleurs chroniques qui affectent 20% de la population.
Par exemple, de l'arthrose, des maux de tête.
Exactement. Et qui utilise l'intelligence artificielle, des capteurs, pour venir stimuler la production d'endorphines. Et donc soulager la douleur, mais ça sans utiliser de médicaments. Ouais, c'est quand même disruptif. Les deep tech, on les trouve également bien sûr sur tous les enjeux climatiques, les batteries, les bornes de recharge, les nouvelles mobilités, des procédés électrochimiques. C'est vraiment on est quand même sur on n'est plus dans l'innovation incrémentale qui vient ajouter quelque chose, faire gagner un petit peu de performance.
On n'est pas sur la feature comme on dit.
Voilà, on n'est pas sur une fonctionnalité additionnelle, un petit gain. Non, on vient changer radicalement la façon dont on opérait.
quoi d'autre dans cette grille de lecture?
Alors, dans cette grille de lecture, vous avez, notamment pour vous aider, ce qu'on appelle le TRL.
Qu'est-ce que c'est que le TRL?
Technology Readiness Level, autrement dit, niveau de maturité technologique. Alors, c'est le TRL, hein, ça va de 1 à 9. Mm-hmm. TRL 4, ça veut dire que la technologie a été validée en laboratoire. Okay. Le TRL 7, vous avez déjà eu une expérimentation en conditions réelles. Donc, expérimentation en conditions réelles, une deep tech, notamment industrielle, va en général aller négocier avec des grands groupes, avec des usines, la possibilité de venir tester hors du laboratoire son prototype.
À quel TRL, en tant qu'investisseur particulier, on peut envisager de rentrer dans une entreprise?
Je veux dire, pas avant le 5-6. Parce que c'est déjà TRL 4, vraiment sortait de laboratoire. Donc, il y a une innovation, sauf que aujourd'hui, on ne sait pas encore si on est capable de lui trouver une application. Mmh. À partir du 7, ça commence à être bien. Parce que si vous avez réussi à convaincre un grand groupe, un directeur d'usine, de venir vous tester, sachant que les risques industriels peuvent être conséquents, c'est que cette innovation-là a fait ses preuves. Après, vous pouvez consolider ça par tout ce qui est littérature scientifique, leader d'opinion, ouais, du monde scientifique, et puis également, si vous êtes un investisseur particulier, les investisseurs qui sont sur le tour de table et vous voulez, nous ce qu'on fait chez Tudigo lorsqu'on rentre sur une deep tech, sur une med tech également, on va regarder des entreprises qui ont déjà sur le tour de table des fonds d'investissement professionnels qui ont un portefeuille et un track record avéré sur ce sujet-là.
Voilà, donc on vérifie, vous l'avez entendu évidemment, la dimension de la rupture technologique, la taille du marché, vous faites vos petits devoirs pour identifier aussi le potentiel de croissance. Vous vérifiez ce qu'Alexandre nous a qualifié de TRL pour la mesure de la maturité technologique. Et puis, il y a cette dimension humaine que vous ne minimisez jamais, mais que là, vous avez l'air de particulièrement souligner comme un point important. On consulte, on se documente, on parle avec les gens qui sont proches, dans les tours de table ou dans les gens accessibles, mais aussi on va vérifier auprès, vous nous avez dit, de key opinion leaders, c'est-à-dire des chercheurs, des médecins, des scientifiques.
Voilà, parce que vous voulez plusieurs personnes qui attestent que vous avez vraiment une innovation qui est en capacité de répondre à ce problème-là, et puis qui fonctionne, dont les fondements scientifiques sont valables. Voilà. Même si le TRL va vous donner cette réponse, parce que c'est vraiment la preuve que ça fonctionne. Mais dimension humaine, c'est important, évidemment, sur l'équipe. Ça, c'est particulier à la deep tech. En deep tech, vous voulez trois ingrédients. Des chercheurs, des ingénieurs également, et puis des compétences en gestion.
Un profil plus managérial.
Voilà, parce que vous allez souvent avoir les chercheurs, enfin vous allez systématiquement avoir les chercheurs, parce que c'est de là que ça vient. Il vous faut ensuite des ingénieurs pour en faire une application au monde réel. Et puis, il vous faut absolument, sur ces sujets-là, des cofondateurs, CEO, qui vont être capables d'aller lever les fonds nécessaires. On est sur des temps longs, mm-mm, on est sur des montants d'investissement qui peuvent être importants, et puis qui vont être capables de trouver des applications commerciales et de développer du chiffre d'affaires qui vient rembourser et puis récompenser le risque pris par les investisseurs.
Alexandre, pour conclure, qu'est-ce qui change dans un investissement en deep tech par rapport à un investissement, entre guillemets évidemment, classique?
Quatre choses. Numéro 1, donc la durée d'investissement et les capitaux nécessaires. On l'a dit, hein, on est
plus long, ça plus long, plus cher.
3 à 5 ans sur du classique, 5 à 15 ans sur de la deep tech. Le risque qui va avec, donc on a un risque donc de liquidité avec ce temps long, on a également un risque qui porte sur la technologie, qui porte sur la capacité à trouver un débouché, vraiment un débouché commercial et à l'appliquer dans le monde réel. Après, il y a un troisième, donc là c'est plutôt dans les bons points, c'est l'impact. C'est que si ça fonctionne, l'impact sociétal, environnemental, économique, il va être monstrueux. Vous avez les élus, les gagnants, si vous misez sur les bons chevaux, vous êtes sur quand même des entreprises qui vont potentiellement prendre l'intégralité du secteur. C'est pour ça que vous avez des valorisations délirantes dans le domaine de l'intelligence artificielle, et que c'est la course aujourd'hui à qui fera le meilleur modèle d'IA générative, donc Mistral d'un côté, OpenAI de l'autre. par exemple. Et puis, quatrième point, pareil dans les avantages, des dispositifs fiscaux et des aides, des subventions qui sont là pour aider, en particulier, notamment en France, hein, l'investissement et le développement des deep tech. Pour investir dans une deep tech, aujourd'hui, vous avez la possibilité de bénéficier du dispositif JEIC ou JEIR, qui vous permet donc de défiscaliser 30 à 50% des capitaux investis dans une deep tech. Donc là, l'idée, c'est pas tant de venir aller chercher le levier fiscal, mais de venir réduire le risque de perte en capital de 30 à 50%.
Il y a un gros sujet dont il faudrait traiter dans une autre chronique avec vous et peut-être quelqu'un de la bourse, de la cote mid et small, sur est-ce qu'il vaut mieux aller financer, enfin, quand on est entrepreneur, se financer auprès du private equity ou auprès de la bourse quand on est dans le temps long. Et quand on voit les difficultés des medtech et des biotech sur la cote mid et small, est-ce que le private equity a vocation à supporter tout l'investissement disruptif et innovant et deep et tech français?
C'est ce que le private equity fait depuis 20 ans aujourd'hui. Hein. C'est le private equity qui soutient le développement des innovations. C'est ces capitaux privés qui... aujourd'hui permettent de développer des entreprises avant qu'elles arrivent à un stade de maturité commerciale, financière, qui permet de les mettre, de les coter en bourse. On rappelle, hein, les IPO en France notamment, c'est, on se parle de 300 millions l'année dernière. C'est rien du tout par rapport au capital investissement seul qui était en baisse mais qui fait quand même quasiment 6 milliards. Bon, et globalement, le niveau des financements en private equity qui est bien plus important.
Merci beaucoup Alexandre Leng, cofondateur de Tudigo, avec nous sur comment investir dans la deep tech. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay dans quelques secondes sur le site BFM Business. Et puis Alexandre, on vous retrouve pour votre prochaine séance de coaching dans quelques semaines. Vous restez avec nous, ça va être l'heure de parler immobilier. On va s'intéresser aux Français qui résident à l'étranger et aux Français qui résident à l'étranger qui achètent de l'immobilier. On va décortiquer les sujets expatriés avec nos experts. On va parler de l'Espagne, on va parler de l'Italie. À tout de suite.
Tout pour investir, les experts de l'IMO.
C'est l'heure de parler immobilier. Marie Cœur de Joie nous a rejoint. Bonjour Marie.
Pas mal, bonjour.
Le vendredi, vous êtes souvent Marie Cœur de Joie.
Le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi aussi. Hein. Le week-end, non.
Week-end, vous réussissez. Marie, nous allons parler d'expatriés. Vous êtes nombreux et nombreuses à nous suivre depuis l'étranger. On vous salue. Petit top 3, Londres, Hong Kong et la Suisse. Et nous allons nous adresser à vous qui vivez à l'étranger, mais qui surtout investissez. Où investissez-vous? Que faites-vous? Quelles bonnes pratiques peut-on retenir de vos usages? Nos deux experts pour couvrir ce sujet, c'est Guillaume Erard. Bonjour Guillaume.
Bonjour Lorraine.
Notre confrère du journaliste immobilier et puis Geoffroy Reisser de l'équipe Terrata Spain, cofondateur. Spain comme l'Espagne en anglais. Vous avez donc un indice que nous allons parler de l'Espagne. Marie.
Notamment, on va parler de l'Espagne. Mais bon, oui, effectivement, ça fait combien de mois, j'ai envie de dire, que Lorraine reçoit des messages pour parler aux expats et de parler de leur intérêt ou non pour l'immobilier. On va dire avec vous, Geoffroy, parce que c'est quand même un peu votre dada, ça. Investir à l'étranger, qui plus est en Europe, parce qu'on va effectivement parler beaucoup d'Europe, hein, a priori. Déjà, moi, il y a un élément, quand on a préparé l'émission, que je trouvais hyper intéressant, c'est se dire que finalement, là où on s'expatrie, c'est pas forcément là où on a envie d'acheter, en fait, de l'immobilier.
Oui, totalement. C'est vrai qu'on a préparé un petit peu les chiffres et qu'on a regardé la réalité des Français de l'étranger. On voit qu'ils s'expatrient là où on gagne le mieux sa vie.
Là où les salaires sont les plus élevés.
Exactement.
Parce qu'il y a à peu près un sens.
On s'expatrie d'abord là où les entreprises embauchent, pardon, dans la chaîne économique.
Oui. Mais du coup, on parlait de vos auditeurs qui étaient notamment en Suisse. La Suisse fait partie du top 3 avec les États-Unis et le Royaume-Uni pour les pays où les Français s'expatrient. Et par contre, c'est pas là où ils investissent.
Et ils investissent où alors?
Pour le coup, on avait fait une étude Pollenroll il y a un an par rapport à la préférence d'investissement des Français. Et on en avait parlé à l'époque. Et le top 3 pour les Français, c'est l'Espagne, suivi du Portugal, suivi de l'Italie. Donc c'est vraiment...
Là où il y a le soleil, on va pas se mentir, à peu près.
C'est là où il y a le soleil. Donc en fait, ils s'expatrient là où on gagne le mieux sa vie, ils investissent là où on peut bronzer. Donc ça se comprend, les Français sont pragmatiques et on se reconnaît bien là-dedans.
Bon, une fois qu'on a dit ça, maintenant qu'on sait où on a envie d'aller acheter et où on a envie de vivre, en gros, où est-ce qu'il faut investir ? Parce qu'il y a ce qu'on a envie de faire, ce qui nous semble être judicieux, et puis il y a la réalité des marchés locaux, et il n'y a pas forcément toujours une corrélation entre nos envies et l'intérêt réel d'investir dans ces endroits-là.
Non, c'est vrai. En fait, là, je crois qu'en particulier, par rapport au contexte de la dernière année et demie qui vient de s'écouler, et la hausse des taux, il faut vraiment regarder avec attention les pays qui sont le plus impactés négativement par la hausse des taux, donc les pays dans lesquels les prix baissent le plus, et essayer de faire ce qu'on dit souvent en bourse, de ne pas attraper un couteau qui tombe. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que des pays
sauf
comme...
Sauf à Vendée des Gants, pardon.
Non, Marie, ça c'est un adage boursier, on ne rigole pas avec.
Et là, pour le coup, on voit que le Luxembourg, par exemple, et l'Allemagne sont les deux pays qui font le moins bien en 2023, enfin l'an dernier. Ils ont fait moins 13 et moins 10% respectivement.
Et là, vous nous dites, il ne faut pas y aller du coup.
Bah, en fait, il faut faire attention parce que sur les cycles immobiliers, quand on les regarde, les cycles immobiliers ne durent pas un an ou deux ans. C'est plutôt des cycles de 5 à 7 ans. En l'occurrence, tout à l'heure, on parlait justement avec Guillaume de la Grèce. La Grèce, c'est un pays dans lequel les prix ont baissé pendant 10 ans avant de remonter depuis 2018.
Et fiscalement, notamment pour les retraités étrangers, ça peut être un pays intéressant parce qu'on a vu que la nouveauté de ces dernières années, c'est que la fiscalité portugaise, qui était imbattable puisqu'on était exonéré quand on était retraité étranger d'impôts, désormais depuis, je crois, 2020, c'est plus le cas. Le taux est passé à 10%, donc au-dessus de la
Guillaume,
Grèce.
Guillaume, ta conviction, c'est qu'en réalité, la Grèce, c'est le nouveau Portugal pour
c'est
ceux
un
qui
peu veulent. La question que je voulais demander à Geoffroy, parce que c'est vrai que fiscalement, ça peut être intéressant. Maintenant, c'est vrai que pour des questions pratiques, notamment, je pense aux retraités, quand on, je leur souhaite pas, mais quand on a un accident, c'est plus facile de se faire rapatrier depuis le Portugal. C'est un peu neuf, donc peut-être que les gens n'en ont pas encore entendu parler.
Il y a des avions aussi qui relient la Grèce et la France.
C'est vrai, c'est vrai, tout à fait. Mais bon, après, clairement, aujourd'hui...
En termes de distance,
De distance, c'est peut-être plus pratique, mais... Peut-être qu'encore une fois, c'est peut-être encore neuf, donc les gens n'en ont pas encore forcément connaissance. Donc
Alors, fiscalité, sujet passionnant et très intéressant quand on parle d'investir. Il y a deux fiscalités peut-être les plus importantes à regarder. D'abord, la fiscalité sur les revenus locatifs.
C'est ce dont tu parles,
Et après, les successions, parce que justement, on en parlait, c'est très lié. D'abord, la fiscalité sur les revenus locatifs. Portugal, c'est 28%. Espagne, c'est 19%. Italie, c'est 21%. Et Grèce, c'est progressif, mais on tombe assez rapidement dans du 35. Donc en fait, si on parle juste d'investissement locatif,
c'est encore, et côté prix, puisqu'on avait démarré là-dessus, côté prix, la Grèce, là pour le coup, on va rejoindre Guillaume.
C'est un peu plus intéressant. Parce
là,
que
c'est un petit peu plus.
Au Portugal, ça a pas mal flambé ces dernières années.
Alors complètement, justement par rapport au prix. Quand on regarde l'évolution de 2010 à 2023, parce que de nouveau sur l'immobilier, il faut un petit peu essayer d'arbitrer les cycles.
Ouais.
Il y a quatre pays dans lesquels les prix entre 2010 et 2023 n'ont pas augmenté. C'est justement Grèce, Italie, Chypre et Espagne. C'est les quatre seuls. Partout ailleurs en Europe, il y a eu des hausses et parfois des très fortes hausses. Et ce qu'il faut regarder, c'est par exemple sur le Portugal, une ville comme Lisbonne est une ville qui est identifiée par beaucoup d'analystes comme une ville avec un risque élevé de bulle. Donc il faut faire attention parce qu'on est quand même à l'époque du contrôle Airbnb ou des régulations qui se durcissent.
Là, on est sur le moment où finalement ça va basculer. C'est-à-dire que là, on est sur... On l'a connu en 2023 pour tout un tas de pays, avec le début de la baisse pour des pays où, pour le coup, les prix avaient augmenté ces 5-10 dernières années. La patatras en 2023, ça baisse. Là, il vaut mieux s'en méfier parce que ce que vous nous dites, c'est que ça va durer. C'est que c'était pas juste ponctuel pour 2023. Et en revanche, vaut mieux aller là où finalement il n'y a pas eu une envolée spectaculaire ces dernières années, et donc sans doute aussi que si correction il y a, elle sera peut-être moins forte que dans les pays qui ont bien flambé ces dernières années. C'est un peu l'idée.
C'est totalement ma conviction, et même pour aller plus loin, si on regarde la France, on va regarder Paris par exemple, Nantes, Bordeaux, etc. Il y a des villes comme une ville comme Nantes, ça fait moins 8% l'an dernier. Une ville comme Paris, ça a fait moins 5, mais il y a des arrondissements qui ont fait moins 12. Le pire arrondissement à Paris a fait moins 11 l'an dernier. Et à l'inverse, si on compare et qu'on regarde par exemple un petit peu l'Espagne, on a une ville comme Valence, qui est la troisième ville d'Espagne, qui a fait plus 9% l'an dernier, malgré la hausse des taux qui a commencé aussi il y a un an et demi. Et du coup, on regarde, on se dit, mais comment dans un environnement européen, on ne parle pas de l'autre bout du monde, on peut avoir d'un côté du moins 8, de l'autre du plus 9, et forcément dans le cadre d'un investissement locatif, on ne peut pas regarder que la rentabilité brute, il faut aussi regarder le cycle dans lequel on est. Est-ce qu'on est dans un cycle haussier ou un cycle
baissier ? Je profite, Geoffroy, que vous ayez parlé de la France pour me tourner vers Guillaume. Moi j'ai un sujet là, je vous cache pas que je le prépare pour lundi, donc je m'auto-tease pour la semaine prochaine.
Car oui, lundi nous serons partiellement en direct sur BFM Business.
Exactement. La France, justement. Ouais. Là, effectivement, Geoffroy nous le dit, les prix baissent, tout ça. Mais pour combien de temps ? Moi, c'est la question. Parce que vraiment, c'est une question. On a vu que les conditions de crédit, elles, s'amélioraient. Et on a beaucoup de vendeurs qui ont tendance à penser que, bah, du coup, ça pourrait les exonérer d'avoir à baisser les prix.
Bah, c'est un peu le sentiment qu'ils ont parce qu'on parle beaucoup de baisse des taux. Et donc, le vendeur, surtout s'il n'est pas pressé, il voit que les conditions d'emprunt sont un peu plus intéressante pour l'acheteur. Il va se dire, bah, dans ce cas-là, aucun intérêt à baisser mon prix, puisqu'il a un peu plus de capacité d'emprunt. Sauf que, en fait, aujourd'hui, le pouvoir, les taux baissent, certes, mais ils ne baissent pas assez. Depuis l'envolée des taux, le pouvoir d'achat, il a baissé. Les ménages ont perdu quelques 60 ou 70 000 euros, nous disent les experts. Ouais. Donc, il va falloir les rattraper, ces 60 ou 70 000 euros. Et aujourd'hui, on ne les a clairement pas rattrapés. Ouais. Depuis le pic, on était à 4,5%. Là, on est un peu en dessous des 4, ce qui représente à peu près, pour un emprunt moyen de 200 000 euros, 15 000 euros de gains en pouvoir d'achat.
Ce
qui n'est pas négligeable, parce que mine de rien, les 4% qu'on avait, et les 3,5 ou 4 qu'on a là actuellement, c'était en 4 mois. Donc 15 000 euros de gagnés en 4 mois, mine de rien, c'est pas rien. Mais on est encore très loin des 60 000 euros qu'on a perdus.
Mais du coup, Guillaume, ton conseil pour les vendeurs qui nous écoutent et qui ont tendance effectivement à se dire bon, bah voilà, il y a plus de ménages finançables et une capacité d'emprunt un peu meilleure, c'est quoi ? C'est de dire attendez avant de vendre, peut-être qu'effectivement vous n'auriez pas besoin de baisser les prix ou au contraire, vous ne l'aurez pas, il va falloir quand même baisser les prix.
C'est vrai que j'ai envie de dire, pardon, hein, c'est tarte à la crème, mais c'est un peu du cas par cas. C'est-à-dire que si on est pressé, évidemment, bon bah là, il faut vendre tout de suite. Parce que, certes, les prix, ils baissent pas de 10-15% comme on a pu l'entendre dire ces dernières années. Mais mine de rien, si on a chaque année du moins 5%, bah à la fin, on va les avoir en cumulé, ces 10-15%. Donc, si vous n'êtes pas pressé, à la limite, bon, bah, vous pouvez vous dire, bon, bah, je vais attendre encore un petit peu, mais n'attendez pas trop, parce que les prix, ils sont pas prêts de remonter tout de suite, parce que le pouvoir d'achat des gens, même si les conditions sont un peu plus avantageuses, il reste encore très fragile.
Donc, Guillaume, tu vas dans le sens de Geoffroy, de dire que finalement, ce cycle baissier en France n'est pas terminé.
Non, pour moi, non, parce que, encore une fois, certes, les prix baissent, les taux baissent, mais pas assez. Il va falloir que ça... Et d'ailleurs, ce matin, il y a une note des notaires qui a été publiée pour Paris et l'Île-de-France. Ça reste les avant-contrats, donc les prévisions, les projections des notaires. En janvier, on était à 9,008 du mètre carré. Pour mai, ils anticipent un prix à 9,003.
9,003, 9,008, on parle de chiffres à Paris, en Île-de-France. Hein.
Prix au mètre carré.
Exactement.
Ouais.
Alors là, pour le coup, 9,003, là, c'est Paris. Et donc, du coup, se repose la question, même... Est-ce qu'on va passer la barre des 9000 ? Vous vous rendez compte, il y a encore quelques temps, on passait légèrement à peine en dessous des 10 000, et là on parle déjà
de
9000.
La théorie de certains, Guillaume, c'est de dire qu'à l'époque où les taux étaient autour de 3,5-4%, les prix à Paris étaient autour de 8 500 € du mètre carré. Donc est-ce qu'effectivement on ne va pas avoir un réalignement là-dessus ? Juste d'un mot quand même, les prix affichés pour l'instant, ils ne sont plus à la baisse. En revanche, effectivement, et c'est là où je rejoins les notaires et ce que dit Guillaume, c'est que pour le coup, ce qui se vend réellement, donc après négociation, c'est quand même avec de sacrées baisses de prix. Donc les vendeurs, attention, vous pouvez continuer à espérer ne pas avoir à baisser les prix, mais vous ne vendrez peut-être pas.
Surtout, je rajoute juste un mot, surtout si c'est une passoire thermique. Là, parce qu'on
a en plus, on va en reparler après la pub.
Excellent teasing, cher Guillaume, de l'équipe du Figaro. Les passoires thermiques, les expatriés et l'investissement immobilier, c'est le programme. Juste après une petite pub que l'on marque maintenant. Et nous répondrons également à notre auditeur Mike, qui est franco-portugais. Parce que les expatriés, ça ne sont pas que des gens aussi qui partent pour le travail, c'est aussi des gens qui partent pour la retraite, comme on l'a évoqué, mais aussi des gens qui ont parfois deux nationalités et qui vivent tantôt dans un pays, tantôt dans l'autre. À tout de suite.
Tout pour investir, les experts de l'IMO.
Les experts de l'IMO réunis le vendredi pour répondre à vos questions, à vos sujets. Aujourd'hui, on s'adresse aux Français qui vivent à l'étranger et qui investissent. Nous sommes bien entourés, Marie. Nous sommes avec Geoffroy Reiser, cofondateur de Terreta en Espagne, et puis Guillaume Erard, journaliste au Figaro. Marie.
Oui, c'est moi. Comme promis, avant la petite page de pub, on s'était dit qu'on allait quand même reparler un tout petit peu de la fiscalité parce qu'on avait une super question d'auditeur, un certain Mike qui nous a écrit et qui nous demande, alors je vous lis la question parce que j'ai pas envie de faire une grosse bêtise. Lorsque nous nous installons à l'étranger, nos investissements immobiliers sont-ils dépendants des règles locales en termes de succession ? Exemple, nous dit Mike, j'ai la double nationalité franco-portugaise. Si je m'installe définitivement au Portugal, mes investissements immobiliers portugais et français vont dépendre de quelle réglementation au niveau successoral ? Merci.
Merci d'inviter un fiscaliste la prochaine fois, le vendredi.
Exactement. Dans le cadre d'une succession, il y a deux choses. Il y a d'abord la loi et ensuite la fiscalité. Côté loi, depuis 2015, dans l'Union européenne, on peut choisir de quelle loi on veut dépendre. En l'occurrence, s'il a le double passeport France-Portugal...
Il peut choisir décider... le plus avantageux des deux.
Voilà, exactement. En termes de loi, pas de fiscalité. Par contre, en termes de fiscalité, ce qui s'impose, c'est le pays du bien. Donc, pour les biens portugais, ça va être la fiscalité portugaise. Et ensuite, malheureusement, il n'y a pas de convention fiscale de non-double imposition entre la France et le Portugal sur cette chose-là. Donc, ça fera quand même partie de l'héritage global et de la fiscalité globale française ses enfants sont résidents fiscaux
en France. Ouais.
Autre chose, peut-être, par rapport à un cas précis comme celui-ci, le meilleur conseil à donner, ça serait, si c'est possible, qu'à la fois lui et ses enfants soient résidents fiscaux portugais, donc que personne ne soit français à ce moment-là, parce que la France est malheureusement championne d'Europe en termes de matraquage fiscal lors de la succession.
Ouais.
Donc là, pour le coup, on regardait juste pour donner un exemple, sur un patrimoine de 1 million d'euros en succession directe avec un seul enfant, donc de parents à enfants, en France, on est à peu près sur 210 000 euros de taxation globale, alors que dans des pays comme l'Italie ou le Portugal, on est à zéro. Donc les écarts sont énormes. En Grèce, on est à 50 000. En Allemagne ou en Espagne, on est à 100 000.
Mais là, ce que vous nous dites, je crois, c'est que globalement, Mike, il ne pourra pas échapper. Si ses enfants, au moment de la succession, sont résidents fiscaux français, ils ne pourront pas échapper aux règles d'imposition sur les successions françaises.
Non, exactement. Et ses enfants, pour aller un petit peu plus loin, les biens portugais, parce que je crois qu'il y avait des biens portugais et des biens français, les biens portugais, si jamais ils sont vendus, seront aussi soumis à une imposition au Portugal de 25% sur la plus-value.
D'accord. Ah oui, donc bon, bah voilà, Mike, j'espère que vous avez la réponse et que ça peut peut-être réorienter vos investissements ou pas. On parlait du coup fiscalité, réglementation. Il y avait aussi, après, ça me permettra de rebondir sur nos spécificités françaises avec Guillaume, c'est que on peut quand même pas aller à l'aveugle à l'étranger parce qu'à vous écouter, on a énormément d'atouts, c'est la fiscalité plus allégée, etc. Mais enfin, il y a quand même des choses auxquelles on n'a pas l'habitude, nous, en France, il faut se faire accompagner. Est-ce qu'il y a des petites spécificités, des choses à avoir en tête avant de se lancer dans un investissement à l'étranger, même quand c'est en Europe et tout près de chez nous?
Il y en a des très, très fortes.
Soyons peut-être très spécifiques par pays pour que notre parole soit utile.
On va être spécifiques par pays, mais déjà d'abord, dire que la France, c'est le pays le plus protecteur de l'acheteur dans le cadre d'un achat immobilier. Et notamment, en France, on a cette fameuse période de rétractation qui n'existe pas ailleurs en Europe. On a aussi, de manière quasiment systématique, la clause de non-obtention du prêt.
Ça n'existe pas, ça ?
Alors, ça existe théoriquement, et elle peut être mise dans les clauses de l'offre d'achat, mais il y a aussi de nombreux pays et régions où elle est refusée systématiquement par les vendeurs. Je prends encore un seul exemple, mais qui illustre ça. En Espagne, 60% des ventes immobilières se font sans avoir recours au crédit. Ça veut dire que faites une offre que du cash, ou en tout cas pas de crédit hypothécaire. Ça signifie que si moi, en tant qu'acheteur, je fais une offre pour un bien, même au prix, mais que je mets une clause de non-obtention du financement, le vendeur dira non, merci, ça ne m'intéresse pas.
Et comment ça se fait qu'il y ait autant d'achats cash et les gens ont vraiment, encore une fois, c'est des secondes accidents, ou alors ils épargnent beaucoup plus que nous, ils ont un apport plus élevé?
En fait, c'est lié à l'histoire entre guillemets européenne des 15 dernières années. D'accord. Et de la crise de 2008. En fait, avec la crise de 2008, on a des pays qui ont été plus impactés ou beaucoup plus impactés.
L'Espagne, ça a été terrible. Ouais.
Exactement. Espagne, Grèce. Mais on revient sur le quatuor de tout à l'heure.
Ouais.
Espagne,
rappelez-le, Grèce, Italie, pour ceux qui nous rejoignent à la radio LAT.
On a Espagne, Italie, Grèce et Chypre, qui sont les quatre seuls pays dans lesquels les prix sont au niveau de 2008 ou inférieur à 2008. Et en fait, ces quatre pays correspondent exactement aux pays dans lesquels on achète majoritairement sans avoir recours au financement.
Mais je rejoins la question de Guillaume. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, c'est parce que ces prix sont encore accessibles, parce que justement, il n'y a pas eu de rattrapage, qu'on peut payer sans crédit. C'est parce qu'on a une défiance, c'est parce que le crédit est différent de chez nous. C'est quoi l'idée?
Mais parce que aussi les gens ont de l'argent aussi, peut-être simplement.
Oui, alors après, le PIB par habitant est quand même pas le même que chez nous en Espagne.
Mais l'immobilier est moins élevé.
C'est pour ça. C'est d'où la question. Est-ce que c'est le prix de l'immobilier qui permet?
C'est lié à un comportement de comment dire. Effectivement, on va acheter plus tard. On en parlait tout à l'heure. Ouais. L'âge moyen d'accès à la propriété en Espagne, c'est 41 ans. En France, c'est 32 ans. Donc on achète, on est locataire beaucoup
32
plus longtemps.
Ans. Ouais, pardon.
Et le taux de propriétaire, du coup, par rapport à la France? Parce que France, c'est un peu moins de 60%. Ouais. Et du coup, voilà. En Espagne.
France, je crois que c'est 58.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et Espagne, on est plutôt à 75.
Ouais, c'est ça.
C'est un pays de propriétaires.
Tous les pays latins, à peu près.
Il y aurait plus de propriétaires en France si on n'inculquait pas aux jeunes qu'il faut s'endetter pour acheter de l'immobilier, si on leur disait de mettre leur argent ailleurs que sur un emprunt immobilier dès 31 ans.
D'autant que c'est très intéressant ce qu'il dit par rapport aux achats cash, c'est qu'on voit cette tendance en France, alors évidemment pas du tout sur le même profil, on va rester sur des secondo-accédants, c'est-à-dire personnes qui sont déjà propriétaires, donc eux qui n'ont pas besoin de prendre un crédit. Et il y en a pas mal, surtout ceux qui sont pressés, qui acceptent des prix moins élevés, mais parce que c'est un achat cash. Et qu'il y a une telle tension sur les taux de crédit qu'au moins, on est sûr qu'avec un cash, il n'y a pas de problème.
Mais du coup, Guillaume, je t'interroge là-dessus, mais tu ne crois pas qu'à la fin aussi, ça va quand même aussi complètement modifier la typologie de nos acheteurs immobiliers en France? Tout le monde, comme tu le disais si bien, n'a pas les moyens d'acheter
cash. Là, clairement,
il y avait déjà
un marché à deux vitesses entre les primos et les secondos. Là, l'écart, il est en train de se grandir. Aujourd'hui, clairement, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que le marché, il est drivé par les secondo-accédants. Et c'est pas sain. Un marché immobilier sain, c'est un marché qui est drivé par les primo-accédants. Si aujourd'hui on a énormément de secondo-accédants, ça montre vraiment un vrai problème d'accession à la propriété. On reparle du crédit, on reparle des prix qui sont trop élevés et qui, à mon sens, cette tendance doit se poursuivre pour permettre justement. Alors après, encore une fois, il ne faut pas obliger tout le monde à accéder à la propriété.
Bien sûr, c'est pas une
Voilà, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'encore une fois, on l'a vu quand les taux étaient à 1%, parfois il y avait des prêts qui étaient accordés à des gens. Bon, on n'est pas aux États-Unis, mais encore une fois, il faut faire, je pense, laisser les banques, encore une fois, gérer au cas par cas et voir en fonction du profil des gens s'ils sont solvables ou pas.
Mais alors justement, ce que dit Guillaume est hyper intéressant parce que ça me renvoie sur un sujet qu'on devait aborder en première partie, on ne l'a pas fait, mais justement sur le crédit IMO. Aujourd'hui, comment ça se passe quand je veux acheter à l'étranger? Il faut que je prenne un crédit où? Comment ça se passe en fait?
Alors, il y a deux grandes possibilités. La première possibilité, je vais prendre un résident fiscal français qui est déjà propriétaire de sa résidence principale ou qui a des assets sur le territoire français, PER, PEA, etc., qui peut me placer en nantissement auprès d'une banque française. Le plus grand classique, c'est la résidence principale nette de dette. Si jamais on a ça, là, c'est Avenue Royale. On peut tout simplement mettre une garantie déplacée, faire un crédit avec une banque française et acheter où on veut dans le monde, faire ce qu'on veut de son argent. Parce qu'en fait, comme la banque a sur le sol français cette garantie,
c'est ça, ils ont...
voilà, elle peut se retourner vers ça. Souvent, une banque va uniquement prendre en valeur 50 à 70% de la valeur de ce bien-là.
D'accord.
Prendre une marge au cas où.
Donc, pour les personnes qui ont un bon patrimoine, ça va le faire.
C'est la meilleure option. C'est vraiment l'option.
Et pour ceux qui n'en ont pas.
Sinon, on achète en réalisant un crédit dans le pays du bien. Et là, il faut savoir que les pays dont on parle depuis tout à l'heure, notamment Espagne et Portugal, qui sont quand même les champions d'Europe sur ce sujet, sont des pays dans lesquels il y a à peu près 20% d'acheteurs étrangers. Si on parle des régions comme la région de Valence ou d'Alicante, c'est plutôt 40% d'acheteurs étrangers. Donc en fait, les banques sont habituées à prêter à des Français, c'est très classique.
Mais donc ce sont des acheteurs étrangers qui s'endettent dans le territoire que vous évoquez pour faire leur achat de manière locale.
Oui, exactement.
Et on fait quoi? C'est des crédits à 100, 110% comme chez nous?
Alors pas du tout. Alors pas du tout. Encore une fois, on ne prête qu'aux riches, c'est particulièrement vrai quand on achète à l'étranger. Parce que concrètement, une banque va vous financer uniquement 70% en général du prix du bien, ce qui veut dire que je finance 30% plus les frais de notaire, d'agent immobilier, etc. Donc en fait, sur l'opération, on est sur du 60-40 ou 50-50. Donc c'est pas du tout ce à quoi on est habitué.
Donc là,
en
c'est
France.
Deux fois plus qu'en France, ouais, où généralement on demande un apport de 20%. Quoi.
Non, c'est pour ça que le motif ou la raison de l'achat à l'étranger, elle va être davantage sur le fait de pouvoir acheter dans un pays où les prix sont plus bas, ouais, où les rentabilités sont plus hautes, et à la limite avec une logique de pied-à-terre, de digital nomade ou de choses comme ça.
Et est-ce qu'il n'y aurait pas une logique aussi de réglementation, par exemple, sur le marché locatif, ce qui nous emmène, bon, normalement sur notre sujet, favori des passoires thermiques. Bon, on en est où à l'étranger? Parce que nous, c'est un peu notre dada. Guillaume, j'imagine que dans le Figaro, à peu près toutes les... J'allais dire tous les jours, bon, peut-être pas, mais toutes les semaines... J'imagine que tu as aussi un sujet passeport.
Oui, puis il y a une étude très intéressante de Se Loger, meilleur agent là-dessus, qui montre encore une fois que le DPE, le fameux diagnostic de performance énergétique, est devenu un critère. Mais maintenant, c'est carrément primordial, indispensable, regardé par tous. Quand on pense qu'il y a encore quelques temps, on ne savait même pas ce que
fichait,
c'était.
On s'en fichait, évidemment.
On ne regardait pas, il y avait une telle demande. Là, clairement, aujourd'hui, c'est devenu un critère majeur. Et on voit aujourd'hui que la décote entre une passoire thermique, donc un bien qui est classé F ou G sur votre diagnostic de performance énergétique, la décote peut grimper jusqu'à 15% en moyenne par rapport à un bien classé D.
Et ça, Guillaume, c'est à cause de l'accélération du calendrier, parce que en gros, ces décotes-là, à mesure qu'on s'approche des interdictions des G, on le rappelle à nos auditeurs, téléspectateurs, j'ai pas le petit... Bon bref, mais 1er janvier 2025, ouais, c'est terminé pour les G, 1er janvier 2028, c'est terminé pour les F. Donc effectivement, cette décote s'accroît.
Ouais, et puis, la plupart du temps, ce qu'on a constaté, c'est que les propriétaires de ces biens qui, la plupart du temps, sont des personnes âgées, n'ont pas envie, pas les moyens de faire les travaux, donc ils vendent. Et donc on a vu un afflux, et c'est peut-être ça qui fait que beaucoup disent qu'en fait la baisse des prix à Paris, non seulement elle est modérée, mais elle est peut-être faussée, parce que si vous enlevez toutes ces passoires thermiques, eh ben, mine de rien...
Il ne reste plus grand-chose.
Et voilà.
Et alors à l'étranger, comment ça se passe, Geoffroy?
Alors, déjà, rien à voir. Quand on regarde le panorama européen, la France, on pourrait l'appeler la dictature verte.
Oh là là!
Ce qui est positif aux égards des objectifs de l'Europe pour 2050. Ouais. L'Europe doit rénover 40 millions de logements, 40 millions de bâtiments, donc encore plus que ça.
Ouais, ouais.
40 millions de bâtiments d'ici 2050. Donc les objectifs sont énormes. Et ça touche pas que la France, c'est tous les pays européens, c'est vraiment l'Europe qui doit faire ça.
Mm-mm.
Maintenant, la France, c'est 17% de passoires énergétiques, et c'était 19% il y a un an. Mm. Donc, on est sur un taux qui nous semble élevé. Et par contre, sur les mandats de vente, je crois que c'est 30 ou 35%, en tout cas, selon
les
Donc il y a une proportionnalité doublée. En revanche, à l'étranger, alors j'aime bien parler de l'Espagne, mais j'ai pas trouvé le chiffre sur la Grèce et l'Italie, j'aurais bien aimé. Le pourcentage de passoires énergétiques en France est de 17%, en Espagne est de 85%.
Non. Mais attends,
d'un point de vue architecture, parce que je veux dire, le concept de passoire ou de bouilloire thermique, il est très lié quand même au dérèglement climatique. L'Espagne, c'est un pays où il fait très chaud au sud. Depuis des millénaires, j'imagine qu'on sait construire sur ces territoires des maisons résistantes à la chaleur. Alors, c'est quoi la définition d'une passoire thermique en
Espagne? Rejoins Lorraine, le thermomètre est peut-être pas le même.
Le thermomètre n'est pas le même, voilà. C'est un super point. On l'a vu en France, il y avait le débat sur plusieurs experts en la matière qui donnaient des lettres différentes. En Europe, quand on regarde un petit peu ce qui se passe, les champions d'Europe, pas de surprise, c'est la Suède, la Finlande, la Norvège.
Et bien sûr.
Jusque-là, on s'y attendait. Ah, oui. Bon. Le sud de l'Europe, c'est évidemment les cancres, parce qu'on a moins besoin, etc. Cela dit, le calendrier arrive. Sauf que ce que ces pays font n'est pas la même chose qu'en France. Je donne un seul exemple. L'Italie, on va arrêter de parler de l'Espagne. L'Italie, ils ont créé le super bonus 110%, où en fait, ils ont mis un crédit d'impôt sur les 5 prochaines années pour quelqu'un qui investit dans la rénovation énergétique de son logement. Donc en gros, tout ce qu'on dépense dans sa rénovation énergétique, on le récupère en crédit d'impôt sur les 5 années à venir.
Mmh. Pas mal.
Sauf que, petit problème, leur déficit budgétaire a explosé l'an dernier, en cause notamment ce dispositif qui leur coûte beaucoup trop cher. Donc on voit qu'il y a une opposition forte entre l'ambition politique et
mais
la réalité.
Mais c'est pareil en France, Guillaume,
ouais,
non
ouais, hein c'est vrai. Bah, et pour le coup, clairement, aujourd'hui, il y a un vrai enjeu et une difficulté du gouvernement à répondre à la fois à l'enjeu politique et à la difficulté du marché locatif, que ce calendrier pose un problème. Et d'ailleurs, on l'a vu récemment avec les 140 000 logements qui sont sortis.
Les petits logements.
Voilà, exactement. Les tout petits logements chauffés à l'électrique, etc., etc. On voit clairement que le gouvernement essaye, encore une fois, de
grappiller
les deux.
Mais c'est ça qui est assez dingue. C'est qu'en même temps, nous, on a tellement complexifié l'obtention des aides et la compréhension de tout le système que finalement, plus personne ne rénove. Comme ça coûte plus rien. Merci exactement. Pour les finances publiques. Voilà, quoi. Donc, mais on n'avance pas. C'est ça l'idée.
Mais sur les mesures énergétique, ce qui est intéressant, c'est que les approches en Europe, on pourrait dire que l'Europe est cacophonique par rapport à l'approche de la rénovation énergétique, parce que si je prends l'Espagne quand même, que je connais assez bien sur ce secteur-là, eux, ils sont en train de mettre vraiment l'accélérateur, mais sur la rénovation des bâtiments. Pas individuellement. Non, pas par l'intérieur, mais par l'extérieur. Et moi, j'ai parlé récemment à des grandes banques comme CaixaBank et BBVA, qui sont deux des plus grandes banques espagnoles,
ouais,
qui n'ont toujours pas, et ça, pour nous Français, ça nous paraît improbable, ils n'ont toujours pas de solution claire et nette pour un individuel, un particulier qui veut rénover son logement. Il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de crédit travaux.
Il n'y a pas des coprés
En général, ils font des crédits conso.
Ouais, bah, super. D'accord.
Ah oui, bah, ça, c'est justement ce qu'on
essaye de... Mais pour voir le taux du crédit conso, c'est pas ça. Forcément ouais. Un mauvais crédit parce qu'il est conso. C'est pareil, c'est très culturel de juger le crédit conso comme quelque chose de très mauvais. C'est très français.
Totalement d'accord. Sauf que en France... pour l'avoir fait l'an dernier, j'avais acheté un logement à Marseille où j'ai fait 50 000 euros de travaux. Bah, d'avoir le crédit sur 20 ans de la totalité, c'est extrêmement agréable pour la mensualité de crédit et pour un investissement locatif. À l'inverse, quand on achète en Espagne et qu'on se retrouve avec un crédit conso qui du coup est sur maximum 5 ou 7 ans,
oui,
c'est pas du tout le même impact sur la mensualité, donc pas du tout le même sur le flux de trésorerie mensuel. Donc quand on fait un investissement locatif, on regarde la rentabilité, certes, mais on regarde aussi le cash flow. Donc ça a un impact pour l'investissement.
On en revient à ce que vous disiez, Guillaume, du cas par cas. Pour conclure cette séquence, j'aimerais que vous reveniez juste très rapidement sur où les expatriés achètent. On a souvent l'impression, et on en parle beaucoup quand on couvre l'actualité des Jeux Olympiques et de l'impact sur l'immobilier parisien en tout cas, l'impression que les étrangers pullulent à Paris, que tout le monde achète à Paris, qu'il y a un effet Emily in Paris, etc. Est-ce que c'est vrai?
C'est très très faux. En fait.
Et voilà.
De toute façon, les chiffres sont là pour le prouver aussi. On voit que c'est un micro-marché. Hein. Mais comme ils ont un budget plus élevé que la France. Bon.
Alors, après, juste par rapport à ça, je dis que c'est faux. Pour clarifier, je vais donner les chiffres. En fait, en France, les acheteurs étrangers non résidents, c'est 1,8% du marché. En Espagne et au Portugal, parce que c'est les champions d'Europe sur le sujet, c'est entre 15 et 20%. Donc, on n'est pas du tout sur la même planète.
Ouais.
En revanche, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des micro-marchés. Typiquement, à Paris, quand on regarde les études de Daniel Féo, Barnes, Juno, etc. Eux, oui, sur le marché au-delà de 3 millions, sur les hautes richesses, etc., là, on retrouve des taux d'acheteurs étrangers supérieurs à 20% à 30%. Mmh. C'est une réalité. Mmh. Mais sur le marché global français, ce n'est pas le cas. Et même sur le marché parisien, juste pour parler de Paris, on n'est peut-être pas sur la moyenne nationale à 2%.
Ouais.
On est peut-être à 5 ou à 6, mais c'est de ça dont
ça
on parle.
Ça reste pitchoun, ouais.
Ça ne fait pas le marché.
Merci beaucoup à tous les trois. Merci Marie d'avoir réuni ce tour de table, Marie Cœur de Roy et Limo. Merci Geoffroy Reiser de l'équipe Terreta Spain, expert du marché espagnol et européen. Et merci à vous notre confrère Guillaume Erard, journaliste immobilier au Figaro. On va finir cette semaine de Tout pour investir avec l'édito crypto d'Amaury de Tonquédec. À suivre.
Tout pour investir. Investir autrement.
Investir autrement dans l'univers des cryptos. Si vous faites partie de ceux et celles qui considèrent les crypto-monnaies comme des actifs, comme les autres, Amaury de Tonquédec est avec nous.
Bonjour Lorraine, bonjour à tous.
Bonjour Amaury, aux manettes de BFM Crypto tous les jours dès 15h, l'émission qui vous fait vivre l'univers crypto et Web3. Avec vous, on fait le bilan de la semaine avant ce week-end prolongé. On va parler de l'ETF Bitcoin Spot. Après le lancement de cet ETF en janvier déjà, ça commence à faire quelques mois, le premier gestionnaire d'actifs au monde, BlackRock, continue d'accélérer sur la crypto, sur le Bitcoin. C'est officiel, il lance, vous nous en avez parlé cette semaine, le premier fonds tokenisé émis sur la blockchain, public Ethereum. Maintenant, on change de crypto. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire?
En fait, pour rappel, pour ceux qui nous rejoignent, un token, c'est vraiment comme un jeton. Et en fait, tokeniser un actif, ça va revenir à le découper, entre guillemets, en plusieurs tokens qu'on va ensuite pouvoir mettre sur une blockchain et l'échanger de manière instantanée et sécurisée dessus. Dans le cas de Bulld, c'est le nom du fonds tokenisé de BlackRock en question, les actifs sont des bons du Trésor américain, donc des obligations souveraines. Ces obligations, elles sont mises sur la blockchain et un token lié à ce fonds équivaut à $1. C'est intéressant pour les détenteurs de ce token parce que ça va procurer un rendement issu des bons du Trésor américain, rendement qui, à l'instant où on se parle, est de 5,5%. 1,5% ouais. par an. Mmh. C'est un placement très sûr, donc ça en fait un produit très attractif. En plus, les bons du Trésor, ils sont optimisés en étant sur la blockchain, parce qu'on peut les acheter ou les vendre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis, on peut toucher le rendement de ces bons du Trésor tous les jours, ce qui n'est pas le cas dans la finance traditionnelle où les laps de temps sont plus longs. Maintenant, tout le monde ne peut pas en acheter. Faut être accepté par BlackRock pour pouvoir le faire. C'est pour l'instant réservé aux professionnels de l'investissement, mais les sociétés crypto qui vont être acceptées par BlackRock, elles vont pouvoir le proposer à leurs clients. Donc, rapidement, on va pouvoir, si on veut, s'y exposer. Pour finir là-dessus, Larry Fink, le patron de BlackRock, a récemment déclaré que, je cite, « tous les actifs financiers vont être tokenisés, les actions, les obligations, etc. » Et BlackRock va jouer un rôle majeur dans l'évolution de ces marchés financiers. Donc, c'est quelque chose qui ne fait que commencer.
Voilà, la méga tendance de la tokenisation de la finance que vous nous documentez. On touche un mot de la peine de prison qui a été confirmée hier concernant le fondateur de FTX, pardon, Sam Bankman. Fried.
Oui, ça fait des mois qu'on en parle hein, sur cette antenne, dans cette émission notamment, Lorraine. On sait enfin la peine de prison qu'a eu SBF, donc le fondateur de la plateforme FTX. Pour rappel, il était accusé d'avoir détourné une grosse partie de l'argent des clients de la plateforme. Hein, ça représente 10 milliards de dollars pour des millions de personnes. On attendait cette décision depuis des mois. Le procès avait fini en octobre dernier. On rappelle qu'il risquait jusqu'à 110 ans de prison.
Oui.
Le procureur avait requis 40 à 50 ans. Il se retrouve avec 25 ans de prison. Bon, voilà.
Tout clément.
C'est bah, plutôt clément. Ouais, ça dépend comment on voit les choses. Mais c'est vrai que sachant qu'il risquait 110 ans, c'est une peine que certains trouvent un peu plus basse que ce à quoi on aurait pu s'attendre.
Il doit aussi 11 milliards, et en tout cas 11 milliards d'amendes.
Effectivement, prison plus 11 milliards d'amendes.
Bon, est-ce qu'on préfère être en prison plus que 50 ans et ou payer 11 milliards d'amendes ? J'ai relevé une petite citation dans une interview chez nos confrères de Bloomberg de Michael Novogratz, qui est aux manettes de Galaxy Digital, un gros acteur de la sphère crypto, qui dit que l'industrie crypto a fait du chemin entre, il y a quelques temps, les images qu'on avait tous de Sam Bankman-Fried en Bermuda, jusqu'à aujourd'hui, Larry Fink, le patron de BlackRock, qui s'intéresse et qui aiguille son énergie et ses équipes vers les cryptos. Un petit mot de régulation. Et une question pour vous, Amaury. Est-ce que l'AMF va arriver à faire face à la concurrence des juridictions européennes étrangères en rapport avec le Bitcoin et la crypto ?
Bah, rapidement, c'est la question, parce qu'on a eu un rapport de la Cour des comptes qui montre que les finances de l'AMF ne sont pas au beau fixe. Et donc la question se pose, est-ce que l'AMF a les moyens d'aller au bout de ses missions ? Quand on parle des missions aujourd'hui, on parle des missions pour réussir à réguler correctement l'écosystème crypto, parce qu'on a MiCA, Marketing Crypto Asset, le règlement européen qui arrive pour uniformiser les juridictions. Et donc, nous, en France, on impose tout un tas de règles aux fameux PSAN, hein, les prestataires de services sur actifs numériques, donc ces entreprises qui fournissent des services sur l'échange ou la gestion de portefeuilles crypto. Et pour ça, il faut qu'on puisse contrôler ces dossiers et les accepter ou non. Le problème, c'est que si ces délais sont trop importants, eh bien, ces entreprises-là risquent d'aller voir à l'étranger si des juridictions étrangères sont plus rapides que l'AMF pour répondre à ces demandes-là, parce que malheureusement, le marché n'attendra pas que la régulation se fasse en France, en tout cas. Et il faut aller au moins aussi vite que le marché, tout simplement, pour rester compétitif par rapport à ce que proposent les pays étrangers.
BFM Crypto, le club Amaury Tonquédec et l'équipe crypto aux manettes tous les jours à 15h, 21h30 et en podcast à toute heure sur notre plateforme. Merci beaucoup, Amaury. Dans quelques minutes, Sandra Gandon prend les manettes de l'antenne. Bonjour Sandra.
Bonjour Lorraine.
Le programme d'avec vous.
On va parler de santé au travail. Est-ce que c'est un problème de collaborateur ou est-ce que c'est la mission du manager ? On va parler
de management et de télétravail. Et puis, on va parler de package de rémunération. Cela, mais aussi toutes les questions que vous, vous allez nous poser pendant l'émission, parce qu'on est en live, évidemment. Il y a une adresse à connaître avec vous, @bfmbusiness.fr. C'est la fin de Tout pour investir. Merci à toute l'équipe, et en particulier à Romy et à Marianne, qui font partie de notre équipe pendant de nombreux mois, et qu'on remercie pour leur travail, et à qui on souhaite bon vent. Merci à toute notre équipe, plus largement, qui reste et qui sera là dès la semaine prochaine pour continuer à vous servir. Lundi, nous serons en best-of, mais nous serons de retour mardi avec la réouverture des bourses pour vous servir. D'ici là, l'ensemble de nos contenus est à retrouver en replay et en podcast sur bfmbusiness.fr. Très bon week-end de Pâques et rendez-vous mardi en direct.
Tout pour investir sur BFM Business.